qui aurait pu prédire ?
Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote.
Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit.
Une bonne vieille viande ici chez nous.
Le 1000e tour commence ce soir.
Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes.
Explosion ! Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du 1000e tour. Je suis avec deux invités. Bonjour à vous.
Salut.
Hello.
Comment allez-vous ?
Bah écoute...
Avant de vous présenter, d'abord, est-ce que les invités vont bien ? C'est important.
Ouais, franchement, ça va là. Je suis bien.
Je suis très bien.
Je suis dans un bon canapé, ça va.
De ma gauche à ma droite, je reçois aujourd'hui Ribo, bonjour.
Hello.
Le Rib.
Il n'y a que toi qui m'appelles comme ça, mais on peut partir là-dessus.
Y a pas J'aime bien.
Quand Alice m'a dit oui, pour la semaine prochaine, faut qu'on voit avec le RIB et tout, je l'ai en mode quoi ? Faut que je te fasse un virement, j'ai pas
ah
j'ai
oui,
pas
pigé. Je me rappelle pas.
Vraiment, j'ai bon, bref. Ribo, tu présentes une émission, tu fais tout, tu es quoi ? Qui es-tu, Ribo ? Présente-toi, tiens.
Je suis prof de maths de 4e et de 6e principalement.
D'accord, donc tu commences par cette présentation.
Non, c'est pas la blague, c'est pas
la blague. Non, mais si, on va en parler.
Ok, on va en parler. Sinon, je suis youtubeur avant tout. Voilà, donc je présente une émission qui s'appelle Dans la sauce. Mon pseudo, c'est mon nom entier, on va dire, c'est Ribo Dans la sauce. Donc c'est le nom de mon émission. Ribo, c'est mon nom à moi. Donc c'est une émission YouTube, essai vidéo de gauche, on va dire, un peu. Comment on pourrait dire ça ? Un peu usulcore, on va dire, voilà. Un peu dans le même style, quoi. On essaye de parler un peu
de
la société.
Gauche,
oui. Plutôt.
Okay.
Plutôt. On reçoit un peu de tout dans cette émission. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus gauche. Et puis voilà, moi je veux ouvrir ma porte à toutes les pensées politiques.
Ok.
Bien sûr, comme vous avez pu le constater depuis le début de ce podcast.
Je suis de gauche, mais gaulliste avant tout. Gaulliste social, c'est comme ça que je le définis.
Voilà, bon bah c'est bien,
parfait.
Tout va bien. Donc tes vidéos, c'est de la. C'est de l'analyse, on va dire.
Ouais,
ces derniers temps, ça a beaucoup été. Tu commences à bien aimer ce format. Je prends une personnalité politique et puis on va aller fouiller vraiment qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, se partir d'une personnalité politique pour faire un portrait, mais un portrait qui va plus loin que simplement la description du personnage et qui essaye d'aborder quelques thèmes. Quoi. Donc le dernier, c'était un portrait de Jordan Bardella, donc le nouveau président du Rassemblement National, comme vous le savez.
Qui est grâce.
Qui quoi ?
Non, j'ai dit quelle grâce.
Ah, quelle grâce. Ouais, bof, hein. Bof. Et du coup, bah, j'ai essayé de parler de nationalisme à travers ça, de nationalisme, de la montée du nationalisme à l'échelle européenne. Voilà, donc j'ai fait un portrait de Bruno Le Maire aussi. On l'a entendu dans le générique d'ailleurs.
Bruno le nul. J'aime beaucoup cette miniature de cette vidéo.
Merci. Ouais. Bah, c'est un peu mon magnum opus. Hein. C'est la vidéo qui m'a fait percer.
Hein, c'est ma préf, hein, en vrai. Hein.
Ah. Moi, c'est un peu ma préférée aussi. Je trouve que c'est la plus. Je sais pas, c'est celle qui fonctionne le mieux un peu. Avec la bonne balance entre humour, foutage de gueule et avec un discours qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Donc, j'essaie de parler un peu des carriéristes qui font partie des élites, quoi, les énarques, l'endogamie bourgeoise parisienne et le rapport à la politique de ces gens-là.
On va revenir à Amélie Oudéa Castéra.
Exactement, c'est exactement ça. On est là-dedans.
On va en reparler. Mais je vais présenter ensuite Alice Rache, que vous connaissez. Puisqu'elle était déjà venue dans le 1000e tour.
Oui, c'est vrai, au mois de septembre. Ouais. Eh ben écoute, grave ravie d'être là, en tout cas.
Alice, donc tu es streameuse.
Ouais.
Tu fais un podcast récemment que tu nous avais teasé
dans
le 1000e tour.
Oui, c'était la première fois que j'en parlais, c'était dans ton podcast.
Encore une exclue, le 1000e tour.
C'est incroyable, que des exclus de fou. Et en plus, c'était un petit peu prématuré parce que ce qu'on a fait, du coup, c'est un podcast que je fais avec ma camarade Laura Nus. Qui est surtout connue pour ses vidéos d'abord sur Twitter puis ensuite sur TikTok et Insta. En fait, on a tourné à l'époque où j'étais passée dans ton podcast, on avait tourné pas mal d'épisodes, mais le temps du coup,
ils étaient déjà faits.
Ouais,
ah ouais,
ce qu'on fait, c'est qu'on en...
même pas.
Ouais, on en tourne plusieurs.
Ouais, vous faites des fournées comme ça.
C'est ça, okay. C'est ça. En général, on se voit sur un week-end et on enregistre plusieurs épisodes. Et là, du coup, on avait prévu de les sortir, mais il fallait qu'on ait un petit stock d'épisodes pour pouvoir lancer le podcast, pour éviter qu'il y ait trop d'attente entre chaque épisode. Et du coup, c'est pour ça que le premier épisode est sorti en novembre, ensuite, deux mois après, du coup.
Ok.
Donc on en reparlera après.
Yes.
Nickel. C'est onomatopée.
Voilà.
Et c'est sur toutes les plateformes, bien évidemment.
Ouais.
Alors bon, tout va bien, ça va
en
ce moment, la forme.
Franchement,
on va parler de politique, ça vous dérange pas ?
Ouais.
Ah, c'est vrai? Merde.
Ouais, comme chouchou, chouchou.
Ouais, ouais.
J'adore la politique. J'adore la politique.
Bah oui,
il y a deux, trois petits sujets, là, comme ça. Vu qu'on a avec nous un prof.
Yes.
Et qu'en plus, en ce moment, alors, gros coup de bol, parce que ça arrive quand même très rarement.
Oui.
Il y a un mouvement de grève des profs.
Tout à fait, tout à fait.
C'est rare, c'est comme une éclipse. Et là, bah, il se trouve qu'il y en a un en ce moment.
C'est fou.
On est en plein moment de crise à l'éducation nationale, ce qui est du jamais vu. Hein. Alors, vraiment, assez incroyable. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, trois semaines après la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'éducation nationale, ça ne.
Oui, ça fait que trois semaines.
Oui, ça fait que trois semaines, oui.
Ok.
C'est
ouais, 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 ouais. Je suis même pas sûr que ça fasse trois semaines. Okay. Entière. Je crois. Ça fait peut-être trois semaines. Tu sais quoi?
Allez,
on va fact-checker.
Allez.
On va fact-checker tout de suite parce que c'est vrai que là, on a quand même une vision du temps. Amélie Oudéa Castéra.
Parce que là, ça, là, de prime abord, ça me fait penser au même avec le capitaine Haddock et Tintin. Là. On dit genre, oh là là, quelle semaine. Mais on est seulement mardi, capitaine. C'est notre impression là. Ça fait
ouais,
que trois semaines. Ça fait même pas un mois. Ok.
Ouais.
Quelle année pourtant déjà.
Alors, le 11 janvier. Donc, on est le 7 février, ça fait 3 semaines.
Ouais, 3-4 semaines, quoi. Je sais pas, je déteste compter.
Ça fait, ça fait moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois.
Non, j'aime bien compter, mais là, ouais.
Ça fait moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois.
Et bah.
Donc, elle essuie déjà, après toute sa polémique dont on a déjà parlé dans le dernier épisode, et on peut aussi redire des trucs hein, sur l'école privée, tout ça, parce que le débat est revenu hein, sur...
Oui.
L'école privée, le financement notamment des écoles privées sous contrat, qui faisait partie de manière opportune, on va dire, des revendications, même si c'était pas à la base, la base de la base de l'appel à la grève. Mais voilà, il y a eu une grosse journée de grève la semaine dernière, jeudi dernier.
Oui.
Il y en a eu encore cette semaine, je crois que lundi.
Mardi, c'était mardi. Alors, faut savoir qu'il n'y a quasiment jamais de grève le lundi ni le vendredi à l'éducation nationale. Sinon, ça t'enlève, ça compte le week-end dedans, en fait.
Ouais.
Donc voilà, tu fais grève le lundi, ça te compte trois jours, alors que tu bosses même pas le samedi
oui,
et dimanche.
Oui, non, mais c'est
donc
bâtard.
C'est mardi et jeudi, quoi. C'est les jours de grève.
C'est ça.
Et oui.
Et
ah,
ouais,
ils sont malins.
Mais c'est vrai que faire grève quand t'es prof, j'ai une amie proche qui est prof, à chaque fois, ça coûte de fou. Tu sacrifies vraiment.
Ah oui. Mais faire grève dans tous les boulots, en tout cas.
Oui, oui. Mais comme quoi, il y a un peu, ouais, ce truc que tu disais. De, en plus, si tu choisis pas le bonjour.
Alors après, moi, à titre personnel, aller à la manif, boire un petit coup avec les copains, chanter quelques chants un peu révoltés. Bah si je le paye d'une journée de salaire, parfois c'est tellement bon, c'est.
Un pote me dit, elle perd 100 balles à chaque fois.
Ouais, c'est ça, mais parfois c'est, tu te dis, bon, bah, au lieu de bosser, tu payes 100 balles ta journée,
tu perds 100 balles
avec tes camarades.
Mais le mojito de la CGT, il n'est qu'à 2 euros.
Exactement. Donc, quelque part, je sais pas, moi je passe généralement des meilleures journées.
J'en ai pris 25.
Je passe généralement des meilleures journées les jours de grève. J'ai l'impression de plus vivre, en fait, les jours de
c'est
grève.
Fou.
Souvent que les jours où j'enseigne. Ce qui veut pas dire que j'aime pas mon métier par ailleurs. Quoi,
comme si le travail était aliénant et nul, en fait.
Ouais, voilà, exactement. Ouais, exactement. Donc je me dis, bon, ça va. Ça va. Bon, en ce qui me concerne, hein, tous les profs sont pas de cet avis, mais,
ouais.
Mais voilà, moi j'aime bien la grève, donc ça me dérange pas de payer mon jour de grève, on va dire.
Voilà. Bien sûr, bien sûr.
Cette pensée bourgeoise, hein.
Ah ouais, ouais.
Cette pensée bobo de gauche, là, oui, bah, la grève, oui, ça coûte de l'argent, mais ça va, j'en ai de l'argent. Oui, bah tiens.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis prêt à payer pour passer un moment de vie de grève, un moment d'action
mais on a bien compris.
Avec mes camarades.
En fait, Ribaud dans la sauce, c'est ton nom à particules, en fait.
Ribaud de la sauce. Tout à fait.
De la sauce. Alors, parmi les revendications, parce que
oui.
Ce n'est pas un mouvement contre Amélie Oudéa-Castéra, même si, bien évidemment, avec toutes les polémiques récentes, elle avait une certaine place sur les pancartes.
Tout à fait.
Et dans les slogans qui terminaient par le mot « dégage ».
Je pense qu'il y avait quelques affiches « Amélie Oudéa, casse-toi », je pense.
Ah,
je pense
qu'il y en a eu, ouais.
Ça, c'est pas mal, ça. Ou « Amélie Oudéa, ramasse tes affaires et va-t'en ».
Oui, oh putain, technique, mais j'aime bien.
Grosse pancarte, mais ouais.
Ouais.
Moins bien, je pense.
Ouais.
Le problème principal,
oui.
le moteur de la grève, c'est cette histoire de dotation.
Tout à fait.
Est-ce que tu saurais expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de ce truc des dotations?
Du coup, oui, les dotations. Alors moi, en plus, je suis au cœur de ça parce que la réforme, donc, pour ceux qui ne savent pas, la réforme et le truc principal qui va être appliqué dès la rentrée, c'est la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques. Donc moi, je suis prof de maths, donc je suis directement concerné. Et donc du coup, au lieu d'avoir une classe de 6e, il y a la 6e A, 6e B, etc. En maths et en français, les élèves qui sont dans des 6e respectives, les cours de maths et les cours de français, ça sera le cas pour les 6e et les 5e, ils les auront pas avec le reste de leur classe. Ça sera par groupe de niveau. Et le problème, c'est que pour éviter d'avoir des groupes trop chargés, et bah, du coup, on augmente le nombre de groupes par rapport au nombre de classes. Mmh. Ce qui fait qu'il faut plus de profs de maths, plus de profs de français, alors que comme par hasard, enfin comme par hasard, c'est un peu un hasard, mais maths et français, c'est les deux matières où ils sont le plus en rate de profs. Et du coup, il y a une espèce de casse-tête à la fois sur le nombre d'heures qu'on va devoir assurer, sachant que ça manque de personnel, et même à un niveau beaucoup plus concret. Moi, je vois dans mon établissement, on manque de salles. Donc on va, là, on est en train de se poser la question,
où est-ce
qu'on va faire les cours.
Oui, c'est bien beau de dire, oui, non, mais on double les classes. Oui, mais il y a un problème physique et palpable le nombre de murs. Et qui doivent être au nombre de 4 et non de 0.
Exactement.
Pour une salle.
4 murs et de préférence un plafond et un sol aussi.
Du
chauffage, mais moi j'en suis un point. Si c'est au rez-de-chaussée qu'il n'y a même pas de sol.
Non, en vrai, c'est un problème dans plein d'écoles, le chauffage au premier degré.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que.
C'était déjà le cas avant.
Oui, c'est vrai.
C'est pas là-dessus. Mais du coup, il y a ça. Il y a le côté, on manque de salles. Déjà, dans mon collège, mais c'est le cas dans énormément de collèges, on manque de profs. Et il y a aussi le casse-tête, par exemple, très simplement, l'organisation en termes d'emploi du temps, etc. etc. Parce qu'un truc dont on ne se rend pas compte, mais la direction, le principal adjoint, toute l'administration doivent réussir à faire des emplois du temps qui permettent aux élèves d'avoir leurs heures au bon moment, etc., etc., sans des trous partout. Et pareil pour les profs, quoi. Et donc là, ça fait une espèce de casse-tête où, du coup, vu que c'est par groupe de niveau, ils vont devoir aligner toutes les heures en même temps. Et donc, ça fait que c'est vraiment un casse-tête. Ils ne vont pas pouvoir satisfaire les demandes des profs et même les demandes pédagogiques par rapport aux élèves pour avoir des emplois du temps satisfaisants. Donc, typiquement, les profs de maths et les profs de français vont avoir des créneaux réservés, mais du coup, ils vont avoir des trous tout le temps. Et les autres matières, bah, par exemple, je ne sais pas, imaginons le mardi matin ou même tous les matins à 10h30, c'est les créneaux de français et de maths, sachant qu'on ne peut pas faire les deux en même temps en plus. Et donc, du coup, les profs de sport, eh ben, ils peuvent plus avoir d'heures à cet endroit-là. Et donc, du coup, pour faire tous les emplois du temps, c'est un bordel monstrueux. C'est vraiment un bordel monstrueux. Et ça, c'est en fait symptomatique de quelque chose qui se passe à chaque fois à l'éducation nationale. C'est que quand il y a une réforme, on laisse les profs et même l'administration, la direction se démerder tout seul.
C'est ça, c'est qu'en gros, la partie politique va faire une réforme qui correspond à une vision idéologique. En disant ce serait mieux quand même si on faisait ça, mais après
ils ont aucune idée de comment ça se passe sur le terrain,
voilà, c'est ça, mais après c'est à eux de se démerder de comment organiser ceci cela quoi.
C'est tout le temps le cas, et moi j'avais déjà vécu un truc un petit peu analogue, souvenez-vous quand il y a eu Jean-Michel Blanquer, le beluga de la République, on pourrait l'appeler, qui avait enlevé les filières donc scientifiques, littéraires, le bac L, bac S, bac ES des filières générales pour dire maintenant c'est à la carte, vous choisissez vos options. Et du coup là c'était déjà la généralisation de groupes, pas de groupes de niveau, mais en gros ils éclatent les classes, ça veut dire qu'on a une classe de référence pour le tronc commun, donc les matières qui sont communes à tout le monde. Et à côté de ça, bah, c'est hop, tu changes de groupe pour les maths, si t'es spécialité maths, spécialité histoire, tu changes de groupe. Et pareil, en termes d'organisation, les lycées, c'était une merde pas possible, quoi. Et donc, en fait, ça ressemble pas mal à la réforme qu'il y avait eu au lycée sous Blanquer. Sauf que là, c'est au collège et c'est encore pire quelque part parce que c'est pour faire des groupes de niveau. Ce qui, en plus, implique tout un tas de choses, ce qui ne marche pas. Et enfin, il y a plein d'implications. Outre l'organisation et la gronde des profs par rapport à la pratique de leur travail, il y a surtout un vrai problème de la vision de l'école que ça donne et les groupes de niveau. Ça ne marche pas et ça donne une vision encore plus compétitive de l'école, de classer les élèves. Et la plupart des enseignants parlent de la fin du collège unique, qui est quand même un des trucs phares de l'école française depuis bien longtemps, quoi. Et une mesure qui est quand même censée être égalitaire, quoi. Alors après, l'école est blindée de problèmes, et bon, cette vision un peu parfois égalitaire de l'école à travers le collège unique, elle rencontre tout un tas de problèmes très concrets, parce que l'école, bah, c'est une machine à reproduire les inégalités. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est une machine à trier, à justifier les inégalités, à introduire des gamins dans le mode de production capitaliste, au final. Et donc ça, c'est presque extérieur à l'école. Et le collège unique, ça règle mal ce problème. Mais en tout cas, se détacher de l'idée de collège unique et faire des groupes de niveau dans ces matières-là, sachant que ça va être généralisé à tous les niveaux dès l'année prochaine, il me semble, et probablement que d'autres matières vont suivre à un moment donné, si on continue à suivre cette direction, c'est moche, quoi. C'est vraiment très moche. Ça rend l'école encore... Les dysfonctionnements de l'école, ça va faire que les accentuer. C'est vraiment terrible, quoi.
Ah ouais. Ouais, franchement,
c'est vraiment terrible. Sachant qu'en plus, études à l'appui, on montre bien que faire des groupes homogènes avec, on va dire, tous les nuls ensemble et tous les forts ensemble, pour parler un peu bêtement, ça ne fonctionne pas.
Puis après, c'est peut-être un peu hors sujet, mais il y a aussi, tu parlais de tri des plus jeunes âges dans l'éducation nationale, mais moi, j'ai découvert un truc... Il y a certains élèves qui sont très très bons, mais qui sont issus de l'immigration, qui sont racisés, qui vont avoir genre, j'ai n'importe quoi, genre 15 de moyenne, un truc comme ça. On va leur dire, va en pro, non ?
Ouais.
Et ça, c'est un truc, ça m'a toujours énormément choqué parce que c'est vraiment un peu systémique en fait. Genre, c'est pas du tout des cas isolés. t'as beau faire selon ce qu'on te dit en mode vas-y, si tu vas travailler bien l'école, tu vas faire ce que tu veux. Non, non, parce que dès avant le bac, on te dit non, non, mais toi, tu.
Ah bah, de
tu
toute façon, oui, ça c'est encore un autre sujet, mais bien ouais, sûr ouais, qu'il y a même un racisme systémique dans l'orientation.
Ah,
ça,
oui.
c'est clair et net.
Ouais.
Et dans la façon dont on va. Évaluer les élèves, pas forcément l'évaluation brute.
Pas le moment de la correction.
Oui, voilà, pas la correction du contrôle.
Ça va.
Juste l'évaluation, on va dire, pour grossir le trait de la fin d'année, pour dire qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, surtout aux classes charnières, où il y a un choix à faire vraiment.
Ouais, ouais.
Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est des problématiques qui se posent souvent plus, enfin, soit en troisième, mais moi, j'ai jamais eu de troisième. Justement, j'essaie de me tenir un peu loin de tout ce qui est orientation au collège, parce que je sais que c'est ça,
Oui, oui, non, mais
je suis pas sûr de pouvoir assumer, disons qu'il y aura une espèce de dissonance entre ce que je pense, mes idées, et le rôle concret qu'a l'école. Et
oui.
Donc je sais que c'est un truc que j'essaie de m'en tenir assez éloigné parce que
je comprends,
j'ai pas signé pour trier des élèves et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Mm. Mais quand même, là je suis au collège maintenant, mais quand j'étais au lycée l'année dernière, j'ai vu des petites choses. J'avais des secondes et à la fin des années de seconde, c'est la grande question, c'est qui va aller en général,
ouais,
qui
voilà,
va aller
c'est ça,
en
exactement.
Technologique, donc qui va aller en STMG et qui va aller en section générale. Et moi j'ai vu des choses, des élèves qui en maths. Je parle de ma matière.
Bien
on avait largement le niveau pour aller faire l'équivalent d'une S, la spécialité mathématique. Et bah, les élèves. Alors j'avais des élèves qui étaient allophones. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, allophone.
Ouais.
Donc allophone, c'est qui n'a pas. Dont le français n'est pas la langue maternelle.
Oui, oui, oui.
Des élèves qui en maths étaient très très bons, justement, parce que quand on est un élève allophone et que le français n'est pas sa langue maternelle, les maths, ça ne pose pas trop problème pour ça.
Ouais.
Ça ne pose pas trop problème. Donc moi j'avais des élèves qui mettaient le paquet sur les maths, sachant qu'en plus les maths, c'est censé être la matière royale qui trie les élèves. On dit tout le temps, si tu es bon en maths, ça ne te fermera aucune porte, machin, bidule. Et pour ces élèves-là, les maths, c'était un peu leur matière qui leur permettait justement, qui pouvait leur permettre de continuer en général. Du coup, normalement, avec un niveau en maths comme ça, pour aller faire S,
non, mais je suis d'accord avec
ou
toi.
Scientifique, ça devrait passer quoi. Et je sais que les élèves qui du coup avaient des lacunes dans les autres matières, au lieu de leur dire bon, ça va peut-être être compliqué sur certains trucs du tronc commun, mais vu que dans les matières scientifiques ça marche très bien, on va leur donner la chance, donner la possibilité, sachant que c'est des élèves motivés souvent, leur donner la possibilité d'aller en général faire la spécialité mathématique, machin bidule. C'était plus, oh, je sais pas si ça va le faire, peut-être que STMG, serait plus adapté à vous. Alors après, là, ça nous amène à une autre question de se dire. STMG, c'est pas censé être une voie de garage ou une filière poubelle à la base sur le papier. Et pourtant, c'est comme ça que c'est utilisé.
Oui,
quoi.
Parce que c'est comme c'est pas un truc général valorisé comme la filière scientifique, on se dit c'est un peu une sous-catégorie.
Ouais,
entre
voilà,
guillemets.
C'est ça, ça passe pour ce qu'on appelle une voie de garage. Quoi.
Ouais,
c'est bien dommage, ça devrait pas être ça. Mais dans, dans les faits, on se rend bien compte du coup, quand il y a ces décisions-là en fin de seconde qui sont prises, déjà deux choses, c'est que. La STMG, les filières technologiques, sont considérées quand même comme des voies de garage, pas la voie de l'excellence, on va dire, premièrement. Et deuxièmement, certains élèves qui pourraient très bien largement réussir à faire la spécialité mathématique, s'ils ont un profil qui semble pas tout à fait adapté, et bon, c'est pour des raisons qui sont liées au racisme systémique,
bien sûr.
Mais pas que, ça peut être aussi en fonction. Voilà, peut-être que si vraiment t'as l'air d'être trop un prolo, même avec la bonne couleur de peau, ça peut le faire aussi.
J'ai failli le dire,
Ouais. Et donc du coup, ça joue vraiment pour prendre la décision. Donc à la fois, ça entérine le fait que STMG, c'est une voie de garage, et qu'en plus, il y a certains, bon, on va les envoyer tranquillement là-dessus, parce qu'ils ont l'air d'être plus faits pour ça, entre guillemets. Quoi. Donc c'est bien dégueulasse. Ouais.
Quel gâchis, vraiment. Hein.
Mais bon, après, l'école, c'est compliqué. C'est compliqué.
C'est clair.
Est-ce que vous avez vu ce qu'a dit Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale, qui a dit « Tous les professeurs vous le diront ».
Ah, alors.
Tu l'as vu ?
Oui, donc elle a dit « Des classes pas assez chargées, ça enlève l'émulation collective dans la classe, et du coup c'est nul, c'est moins bien qu'une classe avec suffisamment d'élèves ».
Donc alors, tous les professeurs diront ça.
Alors, ça dépend où on place le curseur. Je dirais, pour me faire l'avocat du diable, je dirais que effectivement, si j'ai le choix entre enseigner à une classe de 6 élèves... Après, ça, tous les profs diront pas ça, mais moi, personnellement, je trouve que parfois, à 6 élèves, c'est vrai qu'en termes de participation, d'émulation, c'est un peu pas assez. Mais dès qu'on est à partir de, je sais pas, 12 élèves, c'est bon, on est assez pour faire un cours très bien.
Mais à quelle occasion tu fais cours à 6 élèves? C'était ce qui était proposé.
Si tu fais une classe en demi-groupe,
il y a plein d'absents. Demi-groupe où t'es censé être 15, il y a une sortie où tous les, tous les germanistes, là, ils sont pas là, mais du coup, ceux qui font espagnol en demi-groupe, ils sont là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des cours où il y avait vraiment. Un quart de groupe. Et c'est vrai qu'un quart de groupe, c'est un peu morose l'ambiance.
Ouais, je pense.
Mais je veux dire, là, on parle de on va essayer d'avoir des classes à 25 plus que 30.
Oui, le truc, c'est.
C'est
vraiment
c'est pas,
ça.
Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir.
Vraiment ça que les profs demandent et elle caricature un peu le truc.
Le nombre idéal, en réalité, c'est 20 élèves, ça serait parfait. Quoi. 20 élèves, ça serait
nickel.
C'est vrai. Ça serait nickel. Et on est très, très loin d'avoir des 20 élèves, quoi. Alors après, on rêve plus parfois un petit peu, mais il y a encore d'autres problématiques qui viennent s'ajouter à ça. Voilà. Donc, oui, j'infirme. totalement ce qu'a dit la ministre. Voilà, en tant que prof,
ouais.
Je dis qu'elle se trompe, elle dit faux. Et je pense que tous les profs, hein, pour en avoir parlé un peu en salle des profs, la fameuse salle des profs, là où vous, ouais. Vous n'avez jamais pu aller.
Oh putain, ouais.
Pour faire une photo,
ça va être incroyable. Est-ce qu'il y a un baby-foot?
Oh là là.
Non, un baby-foot. Il n'y a même pas de papier, hein. Ça manque de feuilles A4. Il n'y a plus d'encre dans les tonnerres des imprimantes. Bon, voilà, c'est des ordi Windows 98 qui marchent une fois sur deux.
Ah,
non, il n'y a rien de très sexy dans une salle des profs.
Je connais, d'accord, une salle des profs ouais. Dans laquelle il y a notamment, parmi le décor de cette salle des profs, un Nicolas Cage en carton grandeur nature.
Okay. C'est une blague.
Non.
Putain.
Stylé.
Trop marrant.
Non, il n'y a pas de truc de Nicolas Cage spécialement. Il y a des stickers de la CGT dessus de l'éducation.
Ah.
Quand même. Il y a des petites décos un peu simples.
Ah, et est-ce que... Je suis un peu curieuse.
Allons-y sur les salles des profs.
Non, mais parce que...
Comme je disais, j'ai
une amie qui est prof. Est-ce que tu as le prof de droite gênant que tout le monde déteste aussi?
Alors moi, je suis dans un collège où, franchement, on s'en sort bien là-dessus.
Ouais.
On s'en sort bien là-dessus.
Oh, bah, normalement, les profs de droite gênants, c'est les profs de maths. Donc, j'ai envie de dire.
C'est lui, tu...
Alors, moi, généralement, quand je vais boire des coups avec d'autres profs,
ah, trop bien.
Je suis le seul prof de maths. 99 fois sur 10, je suis le seul prof de maths. Et quand je dis que je suis prof de maths, ils sont en mode. Mais c'est des profs de français et d'histoire ici, en fait, frérot. Qu'est-ce que tu fais là? Les profs de maths, ils sont chiants comme la mort, non?
Je suis sûr, ils sont jaloux de ton contenu sur YouTube. En mode, putain, quand même, c'est classe. Si on aurait pu le faire, enfin jaloux, c'est à moitié pour rire.
Non, pas spécialement, je dirais que...
Ils sont admiratifs, fascinés. Oh,
admiratifs, je sais pas. Ils trouvent ça cool.
Bah, normal.
Après, je sais pas, hein, ça dépend. Ceux de mon âge, ouais, ils trouvent ça stylé en vrai. Je pense plutôt stylé. Les darons, les daronnes, avec 30 ans de carrière, bon, ils s'en foutent un peu, quoi.
Ouais. Ah,
pas tous,
dommage,
après.
Dommage.
Pas tous. De mes observations, les profs de ma génération, généralement, c'est quand même plutôt à gauche.
Ouais.
Et chez ceux qui ont 30 ans de métier, voilà, il y a un ou deux gauchistes qui traînent, les autres, ils sont ils sont pas très politisés, ils font pas trop les mouvements sociaux, ils sont un peu mous, quoi. Un peu mous.
Okay.
Mais je pense aussi que se dire, là, les gens de mon âge qui se sont dit, ok, je vais devenir prof, ils savent dans quel bourbier ils mettaient les pieds.
Ah ouais.
Donc peut-être que, voilà, ils se disent pas, je vais être prof pour devenir un petit notable. Ce qu'on se disait peut-être un peu plus dans les années 70-80, par exemple.
C'est vrai.
Comme à peu près, enfin, peut-être pas tous, mais comme beaucoup de professions de la fonction publique.
Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus simple.
Pour le confort de l'emploi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins quelque chose parce qu'on sait que ça peut sauter à tout moment. Donc,
les gens qui vont, ils savent qu'ils vont en terrain miné. Généralement, ils ont une petite conscience politique. Ils se disent, bon, bah, j'y vais pour les bonnes raisons, entre guillemets, quoi. J'ai l'impression. Pas tous, hein. Il y a des profs de mon âge. C'est des gros cons, globalement. Mais moi, je trouve que c'est une minorité, en tout cas. Je trouve que c'est une minorité.
Ouais, ok.
Voilà.
Un nom, une classe, un établissement, peut-être. Parmi les gros cons.
Oh non.
Allez. On va y aller avec la petite date. Hop.
Non, les profs sont très corporatistes. Voilà, là, je dis ça anonymement, entre guillemets, mais genre, normalement, la corporation m'interdit de trop cracher sur mes collègues, donc je le fais quand même parce qu'on est entre nous.
Ni sur le ministre d'ailleurs, la ministre.
Au contraire, hein. Justement, l'aspect corporatiste des profs fait que c'est obligé de cracher sur le ou la ministre, peu importe le ministre.
Ah oui, ça c'est le corporatisme, mais c'est pas la clause de conscience.
C'est le corporatisme entre les profs. Donc t'es obligé de protéger tes collègues, même quand c'est des gros cons, c'est la tradition, et t'es obligé d'insulter ton ministre de tutelle,
même si tu l'adores.
Pas si dégueulasse, c'est la tradition aussi.
Et c'est dire si tu aimes Amélie Oudéa Castéra, tu te forces un peu à critiquer.
Oui, exactement. Je trouve quand même qu'elle s'en prend plein la gueule, c'est bon, c'est une chasse à l'homme au bout d'un moment. Mediapart, ils n'ont pas autre chose à faire, franchement, que de s'attaquer à cette pauvre femme qui n'a rien demandé, sur sa vie privée, sur ses enfants, sur sa famille.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse quand même, c'est vrai que c'est dégueulasse. Bon voilà, j'ai un peu...
C'est bon, là t'as ta caution qui est faite.
C'est bon.
Petite question. J'improvise totalement là cet épisode. J'ai mon fil et je me dis, tiens, je vais alterner entre les actus et des questions. Allez.
Vas-y.
Qui Macron a-t-il surpris nonchalamment dans le Doubs?
Dans le Doubs, c'est tellement précis.
D-O-U-B-S.
D-O-U-B-S, bien sûr.
C'est dans le Jura, ça, non?
Alors, c'est le département voisin du Jura, effectivement.
Ah ouais, d'accord, je vois.
Oui, c'est pas loin des chaînes du Jura, effectivement.
Ok.
C'est qui a-t-il surpris? Juste qui a-t-il surpris la question? C'est pas du tout.
C'est très vague. Et ensuite, à vous d'aller partir à la chasse aux indices en me posant des questions.
Je me rappelle qu'il avait fait un bain de foule à Dole, et je crois que c'est dans le Doubs.
C'est pas loin.
Et moi, je me rappelle vraiment de l'extrait vidéo où t'avais les petites vieilles qui étaient là. On aurait dit qu'elles voyaient Johnny Hallyday, ce truc de fou.
Ah bah,
du coup, moi, j'ai ça en tête quand tu me poses cette question.
Mais ça, c'était un truc d'hier, pour le coup. C'est hier
c'est
que
récent.
Ça s'est passé. Ouais.
C'est un membre de son gouvernement?
Non.
Un macroniste, de manière générale, peut-être?
Non, pas spécialement.
Qui a-t-il surpris?
Ouais.
Mais surpris comment ? Je sais, tu veux peut-être pas trop dire ?
Quelqu'un qui, j'en dis pas trop, mais ouais. Quelqu'un qui, voilà, des gens qui ne s'attendaient pas.
Ah, tu es là !
Genre, oui, bah oui, ou
c'est dans toi,
pas okay. Forcément tu es là, mais vous êtes là peut-être.
Ah, vous êtes là. J'ai envie de dire non à la con. Nikos Aliagas, non, c'est pas lui.
c'est pas t'as une chance sur un milliard à peu
près. C'est pas quelqu'un de connu en fait, c'est plutôt des gens dans une situation précise qui s'attendaient pas à voir débarquer Emmanuel Macron.
Des agriculteurs ?
Ah.
Non.
Ça a rapport avec une profession ?
C'est pas en rapport avec une profession. Bon, parmi les gens, il y a forcément quelqu'un qui a une profession bien précise, mais c'est pas. N'allez pas là-dessus.
C'est des hommes politiques ?
Non.
C'est des animaux ?
Non. Enfin, si, c'est des humains, quoi.
Ouais, c'est des merci.
Homo sapiens.
C'est des homo sapiens. Okay, ah, ouais. Okay. Vraiment, quoi.
Donc, c'est pas Jean-Marie Bigard qui est un Néandertal, par exemple.
Non, du coup.
Donc, non.
Il fallait que je name drop Jean-Marie Bigard. J'étais obligée. Non, Ah, c'est.
Non,
c'est...
En gros, c'était des gens qui étaient dans une situation et Macron est arrivé, c'était pas prévu.
J'étais en train de faire un pique-nique au mois de février, peut-être pas.
C'est en rapport avec le cul.
Non, ça n'a pas de rapport avec le cul.
Il y a une partout.
Il dit c'est bien, vous réarmez. Non, c'est pas ça.
Un petit indice peut-être, là, j'avoue, je bloque. Hein. C'est trop vague, c'est pas des hommes politiques, c'est pas des animaux.
Non. Toujours
c'est
pas Jean-Marie Bigard.
C'était des membres de sa famille ?
C'était pas des membres de sa famille.
Ouais, parce que j'allais dire Brigitte à un moment, genre, ah ouais, qu'est-ce que tu
veux ? C'était des gens random, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ?
Ok.
Ils étaient pas en train de baiser.
Je sais pas, en train de fumer une clope, en train de.
Peut-être qu'il y en avait qui fumaient une clope.
C'est en extérieur, du coup.
Après. Il a dit, hé, la cigarette, on éteint, là ?
Hé, ça.
Non, c'était pas en extérieur.
Des gens en train de faire une pause.
Il y a non-respect de la loi E20 à ce moment-là, du coup.
Peut-être qu'il y a le non-respect de la loi E20 à ce moment-là. J'en sais
rien.
Il y a quelque chose d'un peu rock'n'roll alors.
c'est quoi la loi E20
si c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics en intérieur.
Ah oui, ok.
Depuis quand ?
Merde. Attends.
Merde. J'ai le souvenir de quand j'étais petit. Il n'y avait pas encore la loi E20. Il y avait les réseaux de fumeurs dans les restaurants.
Ouais, mais t'as 57 ans toi aussi.
T'es plus avec moi. Je suis plus jeune. Je suis le Benjamin.
Je fais les RP Laura. Non, par contre. Elle date de quand la loi E20 ? Elle est plus récente que ce que je pensais.
92.
Ah bon ?
Rah, je suis né en 92. Bah.
Truc de fou !
Mais l'application de la loi E20, c'est plus tard du coup.
En fait, ça s'est fait en plusieurs fois.
Okay, d'accord.
Parce que la loi E20, c'est 92, mais l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est 2004 ou 2005.
Voilà,
c'est ça, j'ai le souvenir de quand j'étais petit.
Oui.
Bon, bref, ça ne dit pas qui l'a sorti.
Dans les bars, les cafés, les restos, et tout. Okay. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a quand même beaucoup à voir. Je suis.
Il fumait du cannabis ?
Non.
Il faisait quelque chose d'illégal ?
Non, pas du tout.
Il faisait quelque chose d'anti-macroniste, par essence ?
Non.
Il était en train de faire grève.
Il faisait un truc vraiment, mais banal. Et tellement banal que tu te dis pas, tiens, pendant que je fais ce truc banal, il y a le président qui va débarquer.
Il buvait une bière au bistrot et il y a Macron qui est
arrivé. Ah, tout à fait, mais tout à fait.
Allez !
Tout à fait, Macron a débarqué dans un petit bar tabac PMU du village.
Ah ouais, pour se prendre une petite IPA à la fraîche.
Ah, pour se prendre un café, s'il vous plaît. Il s'est pris un café et du coup, bah ça, c'était l'attraction.
Ah ouais.
Alors là,
c'était la première fois qu'il voyait le peuple en plus.
Ouais.
Mais c'est ça, mais en plus, bah, y a évidemment des petites photos insupportables prises à la volée où on le voit accoudé avec vraiment,
Dieu.
Voilà quoi, sans journaliste, sans rien.
Oh.
Donc le voici, hop, voilà, je vous montre la petite photo.
C'est tellement scripté,
donc
je suis désolée.
On voit Macron comme ça qui est accoudé au comptoir avec un petit café. Le président Emmanuel Macron en pleine discussion avec un client du bar tabac de Roulan.
Oh là là. Okay.
Dans le Doubs.
Putain.
C'est un article de l'Est Républicain qui nous dit « Gérant du bar tabac de Roulan, Marcel Gaufre, n'en revient toujours pas. » Ça te fait rire les noms de famille, c'est ça ?
Non, mais
Marcel Gaufre,
désolée.
Ça te fait rire ?
Désolé, monsieur Gaufre.
Marcel
Gaufre. Ça sonne bien, Marcel Gaufre.
Ça sonne bien. Marcel Gaufre, le gérant du bar tabac, n'en revient toujours pas. J'étais assis dans mon bureau quand mon employé est venu me trouver pour me dire qu'Emmanuel Macron venait d'arriver. Je lui ai dit en rigolant, t'as pas d'autres conneries à raconter ? Quelques minutes plus tard, le commerçant préparait pourtant un café au président de la République. Un expresso, sourit Marcel.
Pitié.
Il a demandé un expresso, le président. Mais voilà, il a débarqué en petit bar tabac, comme ça. Entre deux déplacements, ils se sont dit, oh, je vais me faire un petit café avec le peuple.
Oh, l'odeur. Okay. Putain. Ouais. Ah, ça, franchement, c'est le genre de truc qui me dégoûte. Genre,
Regardez là, il a fait une petite photo avec, avec des clients du bar, il fait un petit clin d'œil.
La meuf avec le t-shirt rose, elle est moyenne.
Ah, le clin d'œil est détestable. Le clin d'œil est détestable.
Les clins d'œil de Macron.
Ah, moi, de toute façon, c'est un truc que j'ai toujours détesté, c'est les gens qui font un petit clin d'œil en serrant la pince. Vraiment.
Ah ouais.
C'est le clin d'œil qui
veut dire.
Dans
le monde du travail, c'est beaucoup.
Ouais, mais c'est pas n'importe qui fait ça dans le monde du travail, j'ai l'impression.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Clin d'œil, c'est vraiment les ratures, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà. C'est ceux qui mettent une cravate alors qu'ils sont pas obligés.
Il fait beaucoup de clins d'œil.
Ah ouais.
Il adore les clins d'œil.
Ah, c'est horrible.
Quand tu vois ses déplacements et tout, tu le vois.
Ouais, c'est le truc qui m'a vraiment glacé le sang, c'est la séquence où il dit qu'il est un grand fan de Gérard Depardieu et qu'il a un sourire, mais
ouais.
C'est...
C'était pendant l'interview,
l'interview de la honte.
Oui,
ah,
oui.
Ah, c'est à vous, c'est ça.
C'est ça, ouais, c'est ça. Comme ça, on évite de parler de la loi immigration, on fait un petit hop,
je suis sûr qu'il l'a même pas pensé comme ça. Je pense vraiment, il s'est pas dit je vais faire diversion. Je pense vraiment qu'il s'est dit,
ouais.
Oh, Gérard Depardieu quand même.
Ouais, c'est vrai. Que
légende de la culture française.
On me pose une question là-dessus, j'en profite pour dire que je l'adore et que calmos quoi.
Non, vraiment la tête qu'il fait là dans cet extrait vidéo. Je sais pas, je trouve glauque ce gars.
Macron.
Ouais, il a un sourire.
T'aimes pas, tu trouves Macron glauque?
Ouais.
Il te revient pas, tu le sens pas?
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Ouais,
alors que tout le monde l'adore. Non, mais c'est vraiment, tu sais, le mec dans American History. Non, dans American Psycho.
American Psycho.
Ouais.
Patrick Bateman.
Ouais, moi je vois ce type-là hein, dans son sourire en fait.
Bah ouais.
Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment terrifiant.
Quand je le vois, je l'attends à le voir surgir avec une tronçonneuse couverte de sang, nue, à poursuivre quelqu'un dans un immeuble comme Patrick Bateman, c'est vrai.
Ouais.
Je
pense
qu'il l'a déjà fait.
Ça va peut-être un peu loin vos propos, je trouve.
Ouais, on est un peu radicaux.
Pardon.
Mais d'ailleurs, on peut parler du racisme parce qu'il y a une actu à ce niveau-là. C'est
ça
que...
a repris là, ça a repris.
Ouais, ça a repris.
Ah,
ouais.
Ça a commencé.
Ça a recommencé. L'émission a commencé.
Ça a commencé.
Ah bon.
Ça fait 5 minutes.
J'adore cette vanne, putain. Ouais.
Non, il y a une actu, c'est que ça y est, le plus grand antifasciste du pays, Gérald Darmanin, a annoncé la dissolution de l'association / bar patriote / identitaire machin, la Citadelle à Lille.
Ah oui, à Lille. J'allais dire à Lyon, pas... mais presque.
Non.
Non, à Lyon, Lille. C'est le guide. Non.
À Lyon, il y a eu des trucs aussi qui ont été... Bon, c'est comme d'hab, hein, ça sert pas à grand chose de dissoudre, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le local se fait dégager, ça fout quand même un coup de pied dans leur organisation, etc., etc. Surtout que la Citadelle à Lille, pour le coup, c'était vraiment. Ils se montraient, quoi.
Ouais.
Et ça, mais
c'est trop grave.
De la même manière qu'à Lyon. Moi, je me souviens que il y a un an et demi, je suis allé à la braderie de Lille.
Ouais.
Donc, la grande braderie de Lille qui est.
Ouais, c'est un événement hein,
très
ouais.
Très cool. Et ils avaient fait dans la rue leur petit stand.
Non, c'est trop grave.
Ouais.
Et donc il y avait leur stand avec de la musique parfaitement
fasciste.
Ouais, des trucs du genre. Enfin, pour moi, ce truc-là est un nom générique pour des. Et puis voilà, ils étaient en mode distribution de tracts, vente de t-shirts. Donc ça restait un bar, c'était pas un bar ouvert, ça restait un local associatif, bar, enfin pour les adhérents et compagnie, comme ça se passe à chaque fois. Donc ça dégage. Ça dégage. Donc c'est une bonne nouvelle.
Alors juste, je crois que c'était la Citadelle qui avait fait une soirée. Je sais pas si vous avez dit quelque chose. Ils avaient fait une soirée. Le thème de la soirée c'était le retour dans l'Afrique.
Mais c'est justement ça qui les a, les a dégagés. D'accord. En rapport l'injonction raciste.
Grégoire de Fondas.
Ah oui.
Grégoire de Fondas à l'Assemblée nationale quand.
Qui avait dit ça
Carlos Bilongos. Ouais.
Carlos Martins Bilongos.
Ouais,
c'est ça.
Ouais. S'exprimait sur la crise des migrants. Il avait crié qu'il retourne en Afrique. Et du coup, ça avait fait toute une polémique, bien évidemment et heureusement, à ce moment-là. Et ça avait beaucoup plu, évidemment, aux fachos qui avaient adoré cette phrase. Ils avaient fait une soirée thématique qui s'appelait comme ça. Et c'est un peu ce qui les a enfoncés dans l'arrêté de dissolution.
Ok.
Voilà.
C'est vrai que pour le coup, j'avais lu un article il y a quelques temps qui parlait justement de l'inefficacité des dissolutions s'il n'y avait pas une vraie méthode, on va dire, pas policière, mais d'enquête derrière, quoi. Et ouais, ça ne sert à rien de dissoudre un groupe qui parfois était à moitié informel, qui marche avec des boucles Telegram, WhatsApp. Si tu le dissous juste sans qu'il y ait des enquêteurs derrière, des gens qui vont en immersion essayer de démanteler le réseau de l'intérieur ou même un peu de l'extérieur, quoi. Mais dissoudre un groupe sans démanteler tout le réseau qui alimente ce groupe, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Mais là, vu que c'est des gens qui avaient un local et pignon sur rue, là, pour le coup, peut-être. Ça n'a pas stoppé la mouvance,
ça
mais au moins,
ça dégage
stoppe ça,
quoi. Mais en fait, on peut parier à peu près que dans 6 mois, ils vont rouvrir un truc
peut-être ça va coûter l'oseille
sous un autre nom.
Oui, voilà, c'est faire,
ça.
Ouais.
Financièrement, ça les met. Ouais, oui.
Mais effectivement, les dissolutions telles quelles, c'est vrai que sans enquête, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des enquêtes, tout ça, parce qu'au final, il n'y a pas tant que ça l'aspect judiciaire dans le truc, quoi. C'est vraiment juste un décret qui dit voilà, cette association-là n'existe plus dans la loi.
Ouais.
Et c'est tout, en fait, ce que ça veut dire.
Bon, de toute façon, spécialiste des coups de com', Darmanin. Il suffit de voir sa manière de lutter contre le trafic. Voilà, il ferme un point de deal éclaté, une cage d'escalier qui rouvre le lendemain. Il est en mode genre, on a fait beaucoup contre la drogue. Alors que si vraiment il voulait lutter contre le trafic de drogue, c'est pas comme ça qu'on fait, je sais pas. Il a pas regardé The Wire, Gérald Darmanin.
Nous avons éliminé 30 points de deal cette dernière semaine. Les 30 étaient le même point de deal, mais il est venu à chaque fois. Vraiment, on leur a dit dégager, ils sont revenus 5 minutes après. On les a redégagés. S'ils reviennent 5 minutes après, on les a redégagés. Hop, ça fait 3 fois. Ça fait 3 points de deal.
Ouais,
c'est vraiment un peu comme ça que ça se passe.
Après, c'est peut-être plus urgent de virer les fachos que les petits dealers.
Plus dur de les virer ?
Non, c'est plus urgent.
Ah oui. Voilà. Ah non, mais moi je suis.
Non, mais je sais.
Je suis pour la légalisation, tout ça. Hein, je suis
surprise, tiens.
Bah oui.
Oh là là,
c'est assez rapide. Il a les cheveux longs.
Ouais. Putain, prof là, allez. Le cliché.
Quelle est votre opinion très éclairée sur les EHPAD, les établissements hospitaliers, personnes âgées en dépendance?
Je me rappelle pas.
Les EHPAD, ouais.
Les maisons de retraite, entre guillemets.
Ouais, les maisons de retraite privées. D'ailleurs, attends, les EHPAD, c'est public? C'est semi-public? C'est quoi? C'est ça, hein.
Ouais, c'est le truc pas gratuit, mais le truc le plus accessible quand t'as rien.
Ouais, mais c'est pas gratuit par contre.
Ouais, non, ça c'est jamais gratuit, ça c'est sûr. Mais moi j'ai un avis assez. Je pense comme beaucoup de gens, je pense qu'en vrai. Moi je pense qu'on finira tous dans un endroit comme ça, tout seul dans notre piste en fait. Parce qu'il dit. C'est tellement.
Toi, tu veux mourir dans ta pisse ? Quelle est votre.
Non, je ne veux pas. On va dire que je suis lucide sur la question. Personnellement, j'ai pas de capital. Et je pense que. C'est là où. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la prison. Vraiment. On parque les gens là parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Et voilà. C'est horrible comme institution parce que, comme les gens qui y travaillent sont sous-payés, qu'ils ont des cadences infernales et tout, du coup ils deviennent maltraitants.
Ouais.
Et ça va toujours de pire en pire.
C'est exactement ça en gros qui a été dénoncé il y a 2 ans quand il y a eu la polémique sur comment
Orpea, ouais.
Ouais, il y avait notamment
Orpea. Et c'est très cher Orpea, ouais.
Mais c'est quand même des EHPAD, hein.
Ah ouais,
ouais.
Oh, attends, je vais me renseigner parce que on va raconter de la merde sinon.
En tout cas, que ce soit semi-public ou privé, il y a une logique marchande derrière sur les boîtes comme Orpea. C'est une boîte qui a vocation à être rentable, qui a vocation à rapporter de l'argent.
EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est pas hospitalisation, je dis hospitalisation, c'est hébergement bien sûr. C'est un établissement médico-social qui est en fait en gestion tripartite.
Ouais.
C'est-à-dire que la gestion est co-gérée par l'EHPAD, qui en tant qu'entreprise privée, le conseil départemental et l'ARS, l'agence régionale de santé, qui dépend de l'État.
Okay.
Voilà. Donc c'est comme ça que c'est géré. L'EHPAD peut être public, privé associatif ou privé lucratif. Voilà.
Et Orpea c'était privé lucratif.
Voilà. Et Orpea et compagnie c'était privé lucratif. Et du coup là, ce dont je vais vous parler concerne. Et voilà, c'est bien, je me renseigne pendant le podcast, comme d'habitude, mais je me renseigne un peu plus sur ce dont je parle. Là, je vais vous parler, du coup, des EHPAD privés lucratifs.
D'accord, donc plutôt Orpea, c'est ça ?
Plutôt Orpea ou autre. Il y en a d'autres aussi.
Il y avait une autre boîte dans la sauce, effectivement.
Un truc comme ça.
Je ne sais plus.
Cozelan, un truc du genre. Bon, on s'arrête.
Mais je pense que de toute façon, je me rappelle qu'ils avaient épinglé Orpea, mais de toute façon, le fonctionnement, c'est pareil.
Il y a eu un livre.
Toutes les boîtes. Oui.
Il y a eu un livre de Victor Castanet.
Oui.
Publié chez Fayard en janvier 2002 qui s'appelle Les Fossoyeurs.
2002.
Et ça.
Non, c'est pas 2022.
Ouais, 2022.
Oui. Ça avait fait l'actu.
Qui parlait de toutes les pratiques frauduleuses, du coup, pour le coup, du groupe Orpea. Et après, il y avait eu les langues qui s'étaient déliées un peu pour ouais. d'autres trucs. Et là, il y a une proposition de loi relative au bien vieillir. Mmh. Avec diverses propositions à l'intérieur, diverses dispositions. Mmh. Et il y a une proposition. Enfin, il y a des propositions qui sont amputées par le Sénat. Le Sénat a dit non, ça dégage. Et la ministre de la Santé actuelle, Catherine Vautrin, que j'adore, que je salue.
Ancienne de la Manif pour tous.
Elle écoute le podcast d'ailleurs.
Ancienne de la Manif pour tous.
Bah, elle est invitée, je crois.
Oui, bien sûr.
Elle est avec Manon Bril et Julien Méniel.
Exactement.
Ah oui, ça, putain, elle s'est assise sur ce canapé là.
Ouais, elle a juste pas parlé. Elle a juste pas parlé, mais elle était à côté. Réécoutez l'épisode précédent et juste pensez au fait qu'il y a Catherine Vautrin juste à côté.
Non, mais ça, c'est elle.
Catherine Vautrin, c'est quand même quelqu'un qui a été nommé ministre de la Santé, qui a passé quand même 2 semaines en étant ministre de la Santé avec une photo de couverture sur Twitter de, d'un truc du domaine viticole, machin truc.
Ok.
Ouais.
L'alcool, c'est pas bon pour la santé.
Non, mais elle, en fait, elle est complètement en mode lobby viticole.
Okay. Un verre de vin par rouge, c'est bon pour la santé.
Exactement.
Mmh, bien sûr.
Un verre de rouge par jour, je voulais dire.
Un verre de vin par rouge.
Ouais. J'ai même pas tilté, je suis dead.
Bah, ouais. C'est jour en verlan, quoi, c'est tout.
C'est vrai. Ça fonctionne.
Bon. Okay, le texte. Voté à une large majorité, donc c'est un article du Monde que sur lequel je m'appuie, de Béatrice Jérôme.
Qu'on salue.
Invité
à l'épisode d'avant, je crois.
Même blague, il y avait beaucoup de monde à cet épisode. Mais malheureusement, j'avais pas de micro pour tout le monde.
Quel dommage.
Le texte, c'est pas en couille. Le texte voté à une large majorité a été amputé des articles qui fixaient des contraintes financières et exigent plus de transparence de la part des établissements introduits par l'Assemblée nationale, et donc ça a été défavorable. Donc avis défavorable du gouvernement et du Sénat, et la ministre ne s'est pas opposée à la suppression des deux dispositions. Ça consistait en quoi ? Pourquoi je vous emmène là-dessus ? Après toutes les polémiques qu'il y a eu sur les EHPAD, l'idée était d'obliger les EHPAD à réserver jusqu'à 10% de leurs bénéfices à l'amélioration de la qualité de prise en charge de leurs résidents.
Bah, 10% des bénéfices, ça va, en plus, c'est pas trop trop lourd, quoi.
Ouais, mais ils ont dû virer, je pense.
Les bénéfices, c'est l'argent qui traite une fois que t'as tout payé, quoi. Enfin,
et voilà.
C'est pas 10% du chiffre d'affaires, quoi.
Quand on voit ça, on se dit, bah, quand même. C'est même pas de base, c'est pas ce que eux avaient décidé de faire.
Bah ouais, non, ça apparemment paraît pas grand chose, quoi.
Non, l'idée, voilà, c'était d'obliger voilà, de réserver 10% de leurs bénéfices à l'amélioration de la qualité de vie.
Et qui est mieux payer les employés, c'est mort.
Notamment le matériel, renouveler le matériel, mieux. Enfin, toute mesure qui peut être destinée à améliorer la qualité de vie des résidents.
Sachant qu'en principe, quand une boîte fait des bénéfices, la logique qui justifie le fait de faire des bénéfices, et parfois des bénéfices records, c'est de pouvoir réinvestir ça dans l'entreprise.
Bien
donc,
sûr,
c'est vraiment complètement con de ne pas vouloir faire ça.
C'est
quoi.
Le capitalisme, frérot.
Oui, mais il y a
voilà, c'est un
avion
qui sont là pour s'en
réinvestir.
Il
y a réinvestir pour améliorer. Ouais. L'idée, en fait, c'est de. L'idée. Je vous explique, vous n'y comprenez rien, les gauchistes, là.
Pardon, ça, on est très
con. Le truc, c'est qu'après, ils mettent des définitions à qu'est-ce qui améliore la qualité de vie ou pas. Et c'est ça le problème.
Ouais.
C'est que ce que le législateur va considérer comme de l'amélioration de la qualité de vie, comme par exemple des meilleurs repas, on s'en fout.
Ouais.
Les besoins nutritifs, tu donnes de la spiruline et un peu de farine et ça
bah
suffit
ouais,
pour manger.
Un petit gâteau d'air, là.
Voilà.
Miam, miam.
Alors que la rémunération du président, du directeur, des choses comme ça.
Voilà.
Après, ça le motive à faire le mieux pour sa boîte s'il est bien payé. Donc, quelque part, je trouve un peu de mauvaise foi.
Bon,
ouais.
À votre avis, quelle raison a été invoquée pour rejeter cette disposition ?
Écoutez, il n'y a pas d'argent magique. Je pense que c'est
non,
ça.
Non, il y a.
Alors, je sais pas, c'est même pas l'argent public, donc je pense pas.
Quel est, selon vous, le risque ?
Perdre en compétitivité ?
On n'est pas loin, c'est ça.
Non. Que les vieux aillent à l'étranger dans des endroits qui coûtent moins cher.
Quoi ?
Non.
Que les vieux s'expatrient en Belgique dans des EHPAD belges qui coûtent moins cher, parce que du coup ils sont plus maltraités.
Oh.
Ah, j'aurais bien senti celle-là, non ?
Non, t'étais beaucoup plus proche sur ta première proposition.
Mais compétitivité par rapport à quoi ? C'est ça que je comprends pas, du coup.
Ah bah c'est les entreprises privées, donc.
C'est pour qu'elles restent compétitives entre elles alors qu'elles font toutes la même chose.
Mais c'est ça.
C'est un peu ça, mais.
Attends, je pense que je sais. Vas-y. Si ils investissent 10% de leurs bénéfices pour améliorer les conditions, j'ai failli dire les conditions de rétention, c'est dire à quel point on est sur un
mais oui, mais...
Le lapsus est presque venu. S'ils veulent prendre 10% de leurs bénéfices pour améliorer les conditions de résidence des résidents, ça veut dire qu'ils vont quand même devoir maintenir leur marge et du coup ils vont devoir augmenter le prix des EHPAD et ça coûtera plus cher à tout le monde.
C'est pas ce qu'ils ont dit, mais, ça, mais ils auraient pu présenter un truc comme ça.
On sent le matheux, là, qui réfléchit, qui anticipe et tout.
Matheux gauchiste.
Ayez
une pensée de droite, ça va beaucoup mieux marcher.
Le RP droitard est dur à tenir, quand même.
En gros,
je vais vous le dire. Allez,
le risque, mais t'étais tellement proche sur ta première proposition.
La compétitivité, c'est un mot un peu magique, ça marche 9 fois sur 10.
Le risque est de refroidir les investisseurs.
Évidemment.
Donc, c'est par exemple, un truc qui sort souvent. Vas-y.
Non, c'est juste pour dire, c'est souvent la phrase magique pour dire « Ah non, mais on va pas vous augmenter, les investisseurs. »
Après, les gens, ils vont plus investir.
Ouais, oui, du coup, ils vont investir plutôt dans les EHPAD des pays voisins, plus compétitifs.
Oui, mais voilà, il y a un peu l'idée de « Ah, mais les riches, ils vont partir. »
C'était un peu un mélange de tout ça.
Ok, ok, j'étais pas loin. Ouais, bah, je crois qu'il y a un terme qui... J'avais vu ça, je sais pas si vous connaissez la série Succession.
Ah, j'ai pas vu.
J'ai pas vu.
Je vais trop voir.
Série HBO exceptionnelle qui parle de...
Pitié, spoil pas.
Tout le monde survend cette série.
C'est trop bien. Ils ne survendent pas, ils la vendent très bien. Oui. C'est une série exceptionnelle. Et dans cette série, à un moment donné, il y a un mec qui bosse là-dedans. Il appelle ça l'or gris, l'argent qu'on peut se faire dans les
EHPAD.
Ah oui,
les trucs comme déjà entendu ce terme. Dans le livre, je pense, de Les Fossoyeurs, il me semble
que. Castanet.
Ouais.
Ah, tu as lu le livre. Moi, je parle des livres, je les ai pas lus.
Non, je n'ai pas lu. Non, j'ai pas le temps de lire, moi. J'ai lu un article d'un mec qui l'a lu, moi. Attends.
Le résumé.
Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que t'étais une intello là. Je me suis dit, oula, l'autre.
Ah, non, quand même pas. Pour ça chez nous, voyons.
Non, je suis pas HPI. Non.
C'est sûr. Mais ouais, l'or gris, du coup, c'est un vrai terme, quoi.
Oui. Et c'est vraiment pour parler, effectivement, de l'argent que permet de se faire toute l'industrie
les EHPAD.
La gestion,
sont un secteur porteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui placent leurs économies dans des EHPAD comme ils le placeraient dans des actions Total ou dans je ne sais quoi ou dans un livret A.
Oui, complètement. Et il en parle dans son livre.
Je pense que c'est plus rentable qu'un livret A. Castanet.
Oui, non, mais moi je parle de livret A parce que je suis plus à même de réfléchir au livret A qu'en action EHPAD.
C'est-à-dire que tu possèdes moins de 20 000 euros de patrimoine, c'est ça que ça veut dire?
Oui, je possède moins de 20 000 euros de patrimoine.
Ouais.
Ouais, bah, c'est tout l'enfer du capitalisme, j'ai envie de dire. Mais enfin.
On y revient.
Ouais, on y revient, mais c'est genre. Il y a des choses qui devraient être sacralisées et sorties des logiques marchandes. En France, en plus, normalement, la France est censée être le pays où il y a un maximum de choses qui sont faites comme ça. L'école publique, à la base, justement, c'est sortir des logiques marchandes de l'éducation. L'hôpital public, c'est sortir des logiques marchandes de l'hôpital. Pourquoi on fait pas ça avec les maisons de retraite, quoi? Enfin.
Non, mais c'est un vrai. C'est un vrai truc, ça. C'est vrai que si c'était. Considéré effectivement comme l'école et tout l'hôpital.
Mais d'ailleurs, c'est un bon parallèle que tu fais, parce que au final, il y a quelque chose de. Enfin, il y a pas mal de liens qu'on pourrait faire entre un EHPAD et une école privée.
Ouais.
Dans l'aspect géré et à but lucratif par une entité, pour pas dire une entreprise, mais en tout cas au moins une entité privée, du côté d'une école et du côté d'un EHPAD, tout en ayant. Beaucoup d'argent public, parce qu'un EHPAD reçoit à fond de l'argent public, tout comme les écoles privées sous contrat, qui représentent quand même l'immense majorité des écoles privées, sont abondamment arrosées d'argent public aussi, quoi.
Et les subventions publiques ont été augmentées plus que les allocations en public. Genre, on va dire que, je sais pas, la dotation, par exemple, dans le privé a augmenté de, je sais pas, je dirais un chiffre au pif, 10% dans le privé, là où dans le public, ça a augmenté que de 5%. Alors, j'ai une petite anecdote, c'est pas directement, enfin, c'est lié à ça par rapport à l'école, dans l'académie de Versailles. Non, même pas, dans le département des Yvelines, je le dis. De toute façon, voilà, moi je représente pour le 7-8. Dans le département des Yvelines.
T'as une petite barbichette qui a poussé là. Tu es la fouine.
Yes, Jamel Debbouze aussi. Il y a des gens du 7-8. Et donc du coup le président du conseil départemental des Yvelines, un escroc notoire qui a quand même écopé de 6 ans d'inéligibilité pour corruption active et passive, un certain Pierre Bédier, vous avez peut-être déjà entendu parler, ancien maire de Mantes-la-Jolie, c'est une raclure, on peut dire ça comme ça, genre, et c'est le président du conseil départemental, et donc sous le mandat de ce monsieur, cette année, la dotation départementale, donc pas de l'État mais du département, qui finance quand même une bonne partie des collèges publics.
Donc c'est les collèges, on rappelle,
a baissé...
département, collège,
collège et lycée.
Et région, les lycées.
Ah non, j'ai rien dit. Oui, pour les collèges, pour les collèges.
Oui, non, je rappelais juste ce...
Exact,
ce...
exact. Et du coup, ça a baissé de, en moyenne, 20%, je crois, la dotation départementale. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait, le département? Ils ont investi un plan d'investissement de 10 millions d'euros sur 6 ans pour fournir des iPads de dernière génération tous les élèves et tous les profs.
Voilà. Voilà.
J'ai mon ancien lycée qui a fait ça aussi des années.
C'était des iPads ou des tablettes normales?
C'était des iPads.
Ouais, c'était des iPads. Et donc, lui, il a fait son contrat juteux avec Apple, qui est une boîte qui ne paye pas d'impôts en France.
Et bah oui.
Et voilà. Et donc là, il y a plus d'argent pour les sorties scolaires, il y a plus d'argent pour les cours de prévention aux violences sexuelles, ce genre de choses. Il y a plus de fric, il y a plus de thunes pour même construire éventuellement des nouveaux établissements. On disait tout à l'heure qu'on va manquer de salles à cause de leur réforme de con.
Bah oui.
Et à la place, ils ont donné des iPads à tous les élèves, quoi. Donc,
ouais,
je sais plus pourquoi je parlais de ça.
Oui.
Par rapport aux EHPAD, c'est ça? Ouais, bah voilà.
On a dérivé,
les financements, c'est n'importe
principe
quoi.
Principe de ce podcast.
Oui, c'est marrant.
Donc là, c'est presque, ça, c'est pas encore pire, mais il y a la même logique, quoi. C'est pour faire plaisir aux investisseurs du monde entier, en réalité, qui voient juste ça comme une manne financière. Mm. Et bah là, c'est pareil, c'est, on fait plaisir à Apple, on signe un juste contrat avec Apple, et à côté de ça, pour le reste, bah démerdez-vous, on vous coupe.
Mais c'est comme le délire de ah tiens, si on foutait des uniformes gamins, là.
Ah oui,
allez, on balance un petit 2 milliards, là. Tranquille, c'est pas comme si on pouvait faire tellement plus de choses avec cet argent, payer des profs, notamment.
Il y a un truc qu'on sait pas sur ces uniformes, c'est qu'est-ce qu'ils vont demander aux profs? Est-ce qu'on aura le droit de venir habiller comme on veut? Parce qu'il n'y a pas de règlement pour les profs.
C'est vrai qu'il y a cette question.
Alors moi, je rêve
quel
de
cauchemar.
Voir une prof d'anglais un peu loufoque avec un chapeau à plumes face à des élèves en uniforme.
Non, même le premier jour de l'uniforme, tu viens vraiment en cliché, vraiment un Jones dans l'idée d'un vieux. Vraiment, tu arrives faire ton cours avec une casquette à l'envers et un sweat avec marqué juste rap.
Ouais. En mode le même avec, comment il s'appelle, Steve Buscemi,
oui,
qui fait
hey fellow kids.
Ouais, tu viens carrément en haillon. Moi, s'ils mettent l'uniforme et que je suis encore prof d'ici là, hein, parce que bon, en vrai, parfois je songe à partir parce que quand même c'est chaud. Hein. Et puis bon, là on voit qu'il y a un projet très fascisant pour l'école.
Si, bien sûr, ouais.
Si peut-être quand même c'est quelque chose qui est plausible, il faut commencer à s'imaginer l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027. En vrai, disons que les macronistes font tout pour. Je me pose sérieusement la question de dégager, parce qu'être une figure d'autorité institutionnelle de Marine Le Pen, moi j'ai pas signé pour ça, quoi.
Ouais.
Pourquoi je disais ça? Donc oui, si je reste jusqu'à la généralisation des uniformes, moi je viens en haillon exprès pour faire un petit pied de nez. Ouais.
Mais j'avoue
littéralement
que...
en haillon.
Perso, j'ai quitté un taf pour justement cette raison-là, on m'avait imposé l'uniforme.
Ok.
Et ça avait rien à voir avec, genre vraiment j'étais... J'étais hôtesse d'accueil, je servais à décorer vraiment le bureau, et ils ont décidé de me casser les couilles et m'imposer un uniforme parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fiquer sur comment je m'habillais, et je suis partie.
Okay. Ils obligeaient de porter des talons?
Un uniforme ou genre une tenue? Ils te disaient, ok, tu vas...
Non, ils m'ont dit, vu que t'es pas capable de t'habiller comme nous, on veut...
Ils t'ont fourni un uniforme,
ouais.
Ok.
Ah ouais, carrément, je vois. C'est en mode...
Bon, après...
T'es trop mal sapé, viens, on te file le truc direct.
Mais c'est en mode, ils voulaient vraiment... C'était juste pour fliquer, hein, genre... Ouais. Si j'avais pas la bonne couleur de collant, truc comme ça. Du coup, je me suis mis en arrêt et j'ai ouvert une chaîne Twitch. Voilà.
Bah, très, très sage décision.
Énorme digression, mais voilà.
Très sage décision.
C'est ça qui domine ici. Hein. C'est bon.
Ouais,
finalement. Et est-ce que c'était talon obligatoire?
Oui. Ouais, il y avait un dress code, mais tellement de fois j'ai
maquillage
voulu
pour connaître un petit peu le milieu. Ouais.
Ah ouais, ouais, maquillage obligatoire.
Ouais, bien
mais
sûr.
C'était même pas dans l'événementiel, c'était en entreprise et il y avait personne.
Non, mais pas en événement. Justement, moi le milieu que je connais plus que l'événementiel, c'est dans l'entreprise et notamment les hôtesses d'accueil.
Tu connais, putain.
Ah oui, je connais bien. Je connais bien.
T'as été hôtesse d'accueil?
J'ai pas été hôtesse d'accueil, mais j'ai travaillé dans des sièges d'entreprise, etc. Et pour avoir déjà discuté avec des hôtesses, effectivement, il y a le côté... J'avais beaucoup discuté d'ailleurs avec une hôtesse d'accueil qui était à l'accueil de la présidence. Donc, c'était même pas l'accueil en bas, c'était vraiment l'accueil de l'étage réservé à la direction PDG d'un grand groupe qui s'appelle... Donc,
je
c'était au siège et c'était l'accueil présidence. Donc, quand tu arrives à l'ascenseur à l'étage réservé à la direction, qui est tout en haut, il y a d'abord un accueil avant d'être amené dans les couloirs si tu as rendez-vous avec le PDG, etc. Et j'avais beaucoup discuté avec elle parce que quand j'avais rien à foutre, j'allais là-bas et on allait boire des cafés. Et elle me racontait à quel point c'était insup. Déjà, elle était payée.
Bah, c'est le minimum.
Très clairement, on est le minimum. Et il y avait vraiment cette injonction à se maquiller d'une certaine manière. Et c'est vrai que, en fait, moi, ce qu'elle me disait, c'était. Mais d'ailleurs, j'en parlais un petit peu, je crois, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, dans un épisode de C'est sa bosse, je pense. Mon ancien podcast qui s'appelle C'est sa bosse sur le monde du travail. Je dois parler de ça vaguement, peut-être dans l'épisode avec Queen Apple.
Ah! Bref. Oui.
Si vous voulez fouiller dans mon ancien podcast. Mais il y avait vraiment ce truc où elle me disait, ouais. Moi, j'en peux plus de travailler ici parce que je comprends que le but de ce qu'on me demande, c'est d'être bonne.
Oui, ah oui, oui.
C'est d'être bonne pour les vieux dégueulasses qui défilent toute la journée pour faire des affaires, quoi.
Ouais.
Il y a besoin que, Jean-Michel, PDG de machin, qui rencontre le PDG d'autres trucs et qui passe d'abord par l'accueil et qui demande son petit café à l'hôtesse, etc. Il y a besoin qu'il y ait ce désir et qu'il y ait ce, truc, quoi. Et vraiment, elle disait, moi, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était ça le but, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Moi aussi, il m'a fallu du temps. Je suis restée 5 ans hôtesse d'accueil en entreprise. Wow,
force à toi. Hein. Moi, j'ai des potes qui ont fait ça, mais c'était en mode 6 mois pour dépanner parce que bon, c'était un peu la merde et que, en attendant de finir leurs études ou ce genre de trucs, quoi.
Ouais.
Mais 5 ans, ah ouais, t'as.
Ah oui, non, mais après, au bout d'un moment, faut manger, tu sais. Et moi, je me voyais bien parce que. Je me voyais bien finir là-dedans parce que c'était confortable, c'était un peu la planque. Hein. Moi, franchement, je veux dire, en fait, il y a un mépris de fou, c'est-à-dire qu'on te donne rien à faire souvent.
Bah, c'est ça le truc, c'est que t'es là, quoi.
Et moi, ça m'allait très bien, vraiment. Je passais mes journées sur YouTube, sur Twitch, je faisais ma broderie en même temps. Tout le monde en avait rien à foutre, c'était trop grave. Genre vraiment, je me cachais même plus, hein, au bout d'un camp.
Ah ouais.
Ouais. Mais on me faisait chier sur quoi ? Sur comment je me sape. Et ça m'a fait craquer, vraiment.
Ah, bah, c'est pas le travail, quoi. C'est.
Ouais.
Non mais du coup on a fait une petite digression sur le monde du travail et ça j'aime parce que c'est un sujet que j'apprécie. D'ailleurs, si vous écoutez le Millième Tour et que vous ne saviez pas que j'avais un podcast précédemment, ça date d'ailleurs déjà de presque 4 ans pour les premiers épisodes, mais voilà, ça s'appelle C'est ça boss, ref à Stupéflip. C'est un podcast qui est disponible également sur une plateforme.
Ah, ouais.
Si vous tapez Julien Pagnac, normalement vous trouverez à la fois le Millième Tour et C'est sa bosse. Il y a eu 6 épisodes et c'est des discussions de 2 heures à chaque fois avec une personne, une personnalité que vous avez beaucoup de chance de connaître si vous écoutez le Millième Tour. Il y en a d'ailleurs qui sont passés dans le Millième Tour et avec qui on parle de leur rapport avec le monde du travail.
Putain, trop bien.
De leurs expériences dans le monde du travail, de ce qui était pas bien, ce qui était bien, de comment il faudrait changer les choses, etc. Voilà.
Bah, je pose la question du coup. J'imagine que vous deux, parce que moi c'est le cas pour moi, j'imagine que le rapport au monde du travail. Et le traumatisme, peut-être que ça a pu être, ça a participé à votre politisation.
Ah oui.
Moi, c'est clairement le cas. Hein.
Moi,
c'est
pas vraiment. Le cas. Non, moi, je dirais pas ça, non. Non, parce que moi, c'est plus l'histoire familiale qui m'a politisé.
Ok, ouais.
Enfin, l'histoire familiale. L'émulation politique familiale. Voilà, une famille, quand même, qui s'intéresse à ça. Un père qui a même fait de la politique à échelle locale.
Ok.
Mais. Ça te fait rire ?
Non, c'est un truc perso, rien à voir.
Un peu de respect.
Non,
Madame Rage, je suis pas d'accord.
Non, dans ma tête, je revoyais mon père serrer la main d'Arnaud Montebourg avec des étoiles dans les yeux, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout. Rien à voir, du coup.
Ok.
Et bah, voilà quoi. Donc, non, mais ça parlait politique, etc. Donc, c'est plutôt ça. Après, dans le monde du travail, je pense que c'est plutôt d'ailleurs l'inverse. Je pense que c'est plutôt ma politisation. On est reparti sur C'est sa bosse là. Hein. Là, vous n'écoutez plus le Millième Tour.
Ouais. Non, mais c'est bien.
Moi, c'est un thème qui me parle beaucoup.
Je pense que ma politisation m'a fait prendre des distances avec le monde du travail. Ça veut pas dire que j'ai pas travaillé, mais même dans mon rapport à comment j'interagis avec la hiérarchie, les collègues, mon rapport à ça, mes attentes par rapport au travail, etc. C'est plutôt dans ce sens-là que
ça t'a donné les armes pour pas te faire bouffer par le monde du travail.
Il y a un peu de ça, ouais, je pense. Je dirais.
Ouais.
Je vais pas dire que je me suis jamais fait bouffer, etc. J'ai fait des jobs de merde aussi, etc. Mais
moi, je sais quoi, le contact du monde du travail, ça m'a.
Ouais.
Pas parce que j'avais un travail particulièrement difficile en réalité. Enfin, j'ai un bac plus 5, j'ai bossé ingénieur rentré par la toute petite porte, quoi. Mais voilà, j'ai bossé dans un bureau à remplir des fichiers Excel, j'étais pas à me casser le dos à l'usine, hein, je vais pas mentir. C'était pas une mauvaise situation en soi, mais l'ennui maladif que j'avais.
Mais je suis désolé, moi, le travail, c'est chiant, hein.
Ouais, enfin, c'est chiant. Mais là, c'était pas juste chiant, c'était vraiment. Ça m'a mis quasiment en dépression en réalité. Genre, vraiment, je me disais, ma vie n'a aucun sens. Et cette absurdité que j'ai vécue à travers le monde du travail, ça m'a quand même bien politisé, quoi. J'étais déjà politisé, mais ça a mis un peu ça dans ma chair, quoi.
Ah ouais.
Et je me suis dit, ah oui, non, ok,
c'est. T'as une épiphanie, quoi.
Ouais, j'ai eu un peu une épiphanie où je me suis dit, attends, mais la politique, c'est pas juste un truc abstrait où normalement, ce monde pue un peu la merde sur les bords, et c'est quand je vais bosser dans ce bureau insignifiant. pas insignifiant, mais dans ce bureau où j'ai l'impression d'être quelqu'un d'absolument insignifiant et qui n'exploite absolument pas ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait être.
Ouais.
Le décalage en un peu mes aspirations, on va dire, et le rôle que j'avais dans l'entreprise, dans le monde du travail, il y avait une espèce de décalage, d'absurdité qui fait que ça m'a quasiment mis en dépression.
Moi, j'avoue.
Du coup, ça m'a politisé. Ça m'a mis en action plus que politisé, mais je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, faut que je devienne un petit peu plus militant, quoi.
Ouais, putain. Ouais. Moi, j'avoue, on passe à autre chose après, mais.
Vas-y.
Moi, j'avoue que j'ai jamais trop compris, parce que j'ai pas peut-être le même ressenti, mais pour moi, le travail, ça a jamais. Pour moi, était une manière de s'épanouir. Que moi, j'étais plus dans le mood. On me donne rien à faire, très bien.
Ouais.
Genre, je suis payée à rien foutre. Et je vais m'amuser en fait et faire des trucs sympas pendant qu'on me paye à rien foutre. Et du coup, j'ai jamais trop compris. Alors, c'est peut-être moi juste perso. Hein, les gens qui s'ennuient au travail. Alors, c'est un peu une théorie, la théorie de l'angle alpha. Ça vous dit quelque chose ou pas?
Frédéric Lordon, tout ça.
Voilà. Et en fait,
imitation de Lordon.
Ah non, j'avoue, j'ai pas les skills pour ça.
Ah, je l'ai un peu, mais j'ose sur commande, j'y arrive. J'ai teasé, je l'ai pas.
Ça reviendra peut-être. Mais ouais, j'avais une camarade de même d'ailleurs qui m'avait expliqué ça. Quand tu te retrouves à avoir une certaine liberté sur ton temps de travail pour faire des trucs qui te plaisent vraiment, ça s'appelle avoir un grand angle alpha. J'explique probablement très mal.
C'est ça. Alors, l'angle alpha, je le dis en tant que prof de maths, peut-être, c'est le décalage entre la volonté et l'intérêt de ton patron volonté et ton intérêt personnel.
Voilà.
En gros, si l'angle est élevé.
Ouais.
Ça veut dire que, si l'angle est faible, ça veut dire que les deux vont dans la même direction, en gros, et ça veut dire que l'angle est faible, donc ça va, il n'y a pas trop de dissonance et tu survis à cette situation. Ouais. Et si l'angle, au contraire, est élevé, ça veut dire que tu vas contre tes intérêts personnels vont contre l'intérêt de ton patron. Et plus l'angle est élevé, plus tu es dans la merde, quoi, en gros. Quoi.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Je crois
que c'est un peu ça, en termes de produit vectoriel.
Ouais.
Ça serait plus un produit scalaire, en réalité.
Oh merde.
Un lordon.
Ouais,
n'importe quoi ce que tu racontes, mathématiquement parlant.
Non, il a vraiment défini mathématiquement pour le coup.
Dans la vidéo, je revois l'espèce de demi-cercle. Là,
Du coup, toi, ton hypoténuse du rapport au travail, c'était quoi?
Non, mais en gros, pour résumer, le fait de pouvoir faire ce que je voulais au travail, c'est-à-dire m'amuser et de temps en temps répondre aux 3 coups de fil qu'il y avait par jour, parce que c'était ça. Hein. Moi, je me régalais et vraiment, c'est quand ils m'ont pété les couilles sur, c'est-à-dire ce que je suis vraiment, c'est-à-dire la plante verte, franchement, ça m'a tué. Enfin, après, peut-être. Tu couperas cette partie si tu veux, tu peux la laisser, sinon je m'en fous. Mais en gros, en 2020, je suis tombée malade, j'ai eu un cancer, j'ai perdu mon sein, donc j'avais déjà du mal avec mon image. Et là, je reviens au boulot 6 mois après, seulement 6 mois d'arrêt après, je reviens et ils me pètent les couilles sur comment je m'habille. Enfin,
il y a un truc symbolique qui est absolument insupportable, quoi. Il y a un côté abject, quoi.
Ouais, et moi, je me suis sentie vraiment objectifiée de fou. En fait, foutez une plante verte. Foutez une photo, mais venez pas péter les couilles sur
le gramme, comme au Japon là.
C'est ça, non.
Des petits robots.
Des petits robots. Okay.
Savez-vous qu'a offert le président kazakh à Macron un cadeau qu'il a reçu la semaine dernière?
Ah putain, je sais pas du tout.
Le président kazakh à Macron.
Ouais.
C'est un vêtement?
Une paire de claques.
Non.
Dommage.
Ça coûte cher ou c'est symbolique?
Je saurais pas dire si ça coûte cher ou pas.
Ça se mange?
Alors,
ça se boit?
Non, je vais dire non.
Ok, on pourrait le manger, mais vaut mieux pas.
On pourrait le manger.
C'est plutôt mou. Est-ce qu'on peut
c'est très drôle.
Est-ce qu'on peut le mâcher?
Oula,
les indices.
Pars pas là-dessus. Oublie la nourriture.
Putain, un chapeau.
Non.
Zéro idée. Qu'est-ce que tu pourrais offrir à un chef d'État dans un truc vraiment officiel et tout? Putain. Des bijoux?
Non, je pensais à des bijoux, des parures aussi.
Ouais.
Non. Une œuvre d'art traditionnelle un peu?
Non.
Tu veux dire des gens?
Des esclaves?
Non, ce n'est pas des gens, non.
Qu'est-ce que tu offrirais à Jupiter?
Mais étrangement. Tu te rapproches plus que qu'un chapeau.
Est-ce que c'est un service qu'il lui a offert?
Non, c'est pas un service. Okay.
Est-ce que ça tient dans une boîte?
Non, en l'occurrence, non, ça tient pas dans une boîte.
Une bagnole?
Non.
Un bon d'achat? sur Amazon.
T'imagines ? C'est vraiment le...
Une Smartbox ? C'est pas une Smartbox ?
Désolé, on est un pays pas très riche, hein, donc voilà. Smartbox, Smartbox week-end de détente.
Yes.
Une encyclopédie Larousse ?
Non.
Tu tiens pas dans une boîte, rappelle-toi.
10 ans à payer. Tiens littéralement dans une boîte.
Est-ce que c'était 10 ans à payer toutes vos factures si vous participez à l'aide d'un SMS envoyé au 08 41 41.
Toutes les factures de l'Elysée.
Dead. Je tiens pas dans une boîte, un arbre.
Quelque chose de militaire ?
Non.
Quelque chose de militant ?
Non plus.
Est-ce que ça tient dans une poche ?
Encore moins qu'une boîte.
Ah oui, je suis con, je suis bête.
Est-ce que ça fait genre la taille d'un être humain ?
Ça fait pas la vivant. Taille. C'est vivant, oui.
C'est un animal.
Ah non.
Oui.
Sérieux?
C'est, c'est marrant parce qu'on a demandé est-ce que c'est un animal tout à l'heure alors que ça avait aucun rapport, ouais. Et là on n'y a pas pensé.
Mais moi, si j'ai pensé vrai. Aux animaux, je me suis dit quand même pas. Et
alors,
pas
un animal kazakh connu.
Un éléphant. Pourquoi j'allais dire un éléphant? Je sais pas.
Un félin.
Un chien.
C'est deux chiens.
Deux chiens.
Très bonne réponse.
Ok. Ouais,
donc, deux chiens. Finir,
voilà, il y a des nouveaux chiens à l'Elysée. Ça vous fait plaisir ou pas?
Nemo, l'ancien chien, il s'appelle.
Mais il y a toujours Nemo, le chien de Macron, évidemment. Et ben maintenant, il a deux poteaux sur des chiens kazakhs. Voilà.
Putain.
Okay. Ils sont mignons, t'as une photo peut-être?
Ben, je n'ai pas réussi à trouver de photo de ça. Il s'appelle Jules et Jeanne.
Oh, bah, tiens.
Il s'agit de lévriers tazi. C'est des lévriers tazi, une race de chiens kazakhs, offert à Emmanuel Macron par son homologue Kassym Jomart Tokayev lors de sa visite au Kazakhstan début novembre 2023. Et donc, ça y est, ils sont arrivés à l'Elysée. Et donc, ils ont été vus notamment pendant la conférence de presse organisée le 16 janvier. Ils ont déboulé en compagnie de Nemo dans la pièce voisine. Oh là là.
Est-ce que ça serait pas le réarmement canin de la France?
Oh là là.
C'est ça.
Il fallait placer le réarmement.
Ah ouais, obligé.
Une fois par semaine, Ribot, hein.
Ouais. C'est quoi le dernier réarmement en date qu'ils ont dit?
J'ai cru que t'allais me demander.
Ah si, c'est réarmement agricole, ils ont dit.
Déjà, et non, et même réarmement scolaire par rapport, enfin dans le discours de politique générale de Gabriel Attal.
Ils ont dit scolaire.
Il a dit réarmement quelques fois pendant son discours.
Ok, ouais.
Et notamment quand il parlait de l'école. Après, je sais pas s'il avait rajouté un adjectif, mais.
Ça, vraiment, cet élément de langage pour moi, c'est.
Ouais,
le,
ouais.
C'est le dernier pas vers le fascisme, en vrai. Là, il a été franchi, hein. C'est bon. Enfin là. Quelle horreur.
Donc voilà. Est-ce que vous avez vu l'affaire qui secoue le Sénat actuellement ?
Le Sénat ?
Oui.
C'est le truc avec, comment il s'appelle là ? Ah non, c'est l'Assemblée. Le cheval de Troie de je sais plus quoi là ?
Non.
Non.
Ah non, j'ai pas la ref non plus.
Quelle affaire secoue le Sénat depuis quelques jours ?
C'est un truc un peu rigolo ?
C'est un truc un peu rigolo.
Ah. J'aime bien les trucs rigolos.
Ah, ça, je l'ai sur le bout de la langue, ça me dit quelque chose cette histoire.
Il y a fumé qui sort de ses oreilles, là, il réfléchit.
C'est en rapport avec Gérard Larcher ?
C'est pas en rapport. Alors Gérard Larcher, du coup, a les pieds dedans, mais c'est pas en rapport avec Gérard Larcher.
C'est pas une histoire de drogue ?
Non, c'est pas une histoire de drogue.
J'ai un truc, ça me revient pas.
C'est en rapport avec une activité un peu illégale qu'on peut faire sur son temps libre, entre guillemets.
C'est pas une activité illégale, non.
Ok.
Ouais, non, je crois que je confonds avec autre chose. Ouais, non.
Vas-y, tente, hein, et puis.
Ils ont demandé à être augmentés.
Rien à voir, enfin, voyons.
Putain, non, l'Assemblée, ça.
Non, si, tu pour le coup. Non,
je rigole.
La semaine dernière, il y a deux semaines, dans le dernier épisode du millième tour, il y avait une question qui portait justement sur l'augmentation de l'enveloppe des frais de mandat des députés. Et effectivement, ça nous a permis d'apprendre que, également, l'enveloppe des frais de mandat des sénateurs avait été augmentée.
Bah,
et c'était de 700 euros.
Celle des députés
a été augmentée de 300 euros. Celle des sénateurs, en réalité, a été augmentée de 700 euros également.
À la chambre haute, l'aristocratie.
Je sais pas si je gagne 700 euros par mois, moi. C'est terrible.
Mais en tout cas, ce n'est pas. Il peut y avoir des discussions à ce sujet-là, mais ce n'est pas l'affaire vraiment embêtante, notamment pour Gérard Larcher. Mais c'est pas lui que ça concerne. Mais en tant que président du Sénat, il est embêté par cette affaire.
Affaire de corruption ?
Non. La corruption est illégale, donc j'ai dit, c'était pas un truc.
C'est illégal, ça n'existe pas, voyons.
Ouais, non, j'ai pas vu. Hein.
Un petit indice ?
Ouais, vas-y.
Peut-être.
Un petit indice. En fait, l'affaire concerne un sénateur dans son bureau.
C'est un truc sexuel ?
Oh.
C'est un truc sexuel.
Oh non, ah oui, j'ai vu.
Mais, ok. Ah, donc c'était pas illégal, j'avais.
Mais attends, comment ça, c'est un truc sexuel et c'est pas illégal ?
Alors le sexe est légal.
Le sexe est légal.
Vraiment.
Ah merde, c'est.
Je te jure.
Ah j'ai le droit.
Promets. Ouais.
Ah,
ouais,
oh putain, trop bien. Ah, bon, je vous laisse.
Allez, let's go. Ah bah il a fait venir des meufs dans son bureau puis l'a baisé quoi.
Alors.
Oui. En gros.
Alors. On parle d'adultes parfaitement consentants. Oui. Juste pourquoi, à la limite, j'imagine que ça doit arriver, mais quel a été le problème ?
Bah, c'est un motif de licenciement normalement dans le droit du travail, si tu baises au travail.
Ça dépend du travail, peut-être. Non, remarque, non,
c'est
pas vrai, c'est pas vrai. ils ont fait trop de bruit et du coup ça s'est su.
Par général, alors, c'est difficile à dire.
La deuxième partie de la phrase est vraie, le début non.
Donc ça
s'est
su.
Genre les femmes de ménage qui rentrent et bonjour.
Non. Comment est-ce que ça s'est su?
Des fois le pocket call, non? Ou un truc comme ça.
C'est quoi ça?
Le pocket call, c'est quand. Ça se fait plus trop avec les smartphones de maintenant, mais quand t'as ton
qu'est-ce
téléphone.
C'est quoi? C'est son bebop qui a sonné?
C'est quand t'as un téléphone dans ta poche et que ça appelle quelqu'un.
Ouais, ça appelle sans exprès.
Ah, d'accord. Ah,
voilà.
L'appel de la poche, excuse-moi. Ah,
voilà.
Ah oui, non, c'est pas ça. Il appelle Gérard Larcher.
Bonjour.
Il oublie de raccrocher. Et puis après. C'est pas le bruit qui les a fait remarquer.
Non, mais il peut y avoir un rapport avec un téléphone portable, effectivement. Oh là là, oh là là.
Aïe.
Bon, ils ont filmé leur ébat.
Tout simplement.
C'est un peu con.
Ils ont envoyé la vidéo à quelqu'un.
Alors, la vidéo a fini par tourner. On ne sait pas trop comment, mais au bout d'un moment, ça s'est su. Au bout d'un moment,
ouais,
ça s'est su. Et voilà.
Ouais.
Et, bah, mal. On a un nom ou pas?
Alors. On a un nom qui n'est pas public.
Ah, qui n'est pas public. Est-ce qu'on a un parti?
C'est pas confirmé, mais en fait, il y a des indices dans l'article du Canard enchaîné sur qui ça pourrait être que les gens ont dit ok, c'est cette personne-là. A priori, ça concernerait.
Ah putain, d'accord.
Et bah ouais, ça baise ici ou quoi? Au Sénat. On va croire que oui. Ok.
Bon. Pardon.
Bon, on va terminer avec un petit jeu.
Ah, le meilleur moment.
On va terminer avec un petit jeu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme jeu avec vous? Comme on a beaucoup parlé d'éducation, de profs, etc., je me suis dit qu'on allait faire quelque chose qui dérive un petit peu du petit bac.
Okay. Mmh.
Le petit bac, les lettres, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, blabla. Et en fait,
on va trouver un certain nombre de noms qui commencent par une certaine lettre.
C'est ça. Mais en réalité, en fait, on va s'éloigner de ça et on va tout simplement faire un truc qui est un mélange entre le petit bac et un truc de Burger Quiz. Enfin bref.
Ah ouais. Okay.
Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, avant chaque question, je vais tirer, grâce à un logiciel très expérimenté, une lettre de l'alphabet au hasard.
Très bien.
Et vous devrez me répondre une réponse qui commence par cette lettre de l'alphabet.
Ok.
Vous avez compris le principe?
Comme un petit bac.
Super. Okay. Comme un petit bac, juste, c'est pas en mode on va remplir des liste, colonnes. Ouais. Voilà. Vous répondez comme ça vous vient. Voilà. Et le premier, la première qui répond et qui dit une réponse pertinente
gagne.
Remporte le point que je ne compterai pas, bien évidemment.
Oui, c'est l'esprit Coubertin. L'important, c'est de participer.
On va se chauffer un petit peu, je vais tirer une lettre et alors d'abord je vais vous donner l'intitulé. Donc je vais vous demander un homme politique.
Très bien.
Okay. Nom de famille, homme politique. Voilà, tout simplement. Je tire la lettre, attention, j'appuie I. Oula.
Pas évident I.
Pas facile. Allez.
J'avoue,
J'en ai un, mais ça commence pas par I, donc ça marche pas.
Bah, oui, merci, Ribo.
J'avais pas pensé. Je crois que c'est la pire lettre.
Bah oui.
Parce que je pense à Hidalgo, mais bah non, du coup, c'est mort, il y a un H.
Ah ouais, moi je pense à Izquierda, qui est juste la gauche. Il n'y a pas de nom. Personne ne s'appelle comme ça. C'est le seul mot que j'ai en tête, là.
Même tu m'aurais demandé un prénom qui commence par I, déjà j'en aurais à peine eu.
Yann Brossa, hop là. Allez, je gagne le point. Allez, c'est autorisé pour... Je joue pas normalement.
Ok, mais on a le droit au prénom, par exemple. On a le droit d'un peu loubarder si c'est trop dur, quoi.
Vous avez le droit de loubarder à grave.
Ok, très bien.
Bon, allez, j'en tire une autre. Même question, je tire une autre lettre.
Ok.
L.
Bruno Le Maire.
Allez.
Oh là, oh bah oui, bah forcément.
Mon animal, mon animal totem, hein, littéralement. L'homme qui m'a fait percer sur YouTube. Je lui dois beaucoup. Quand je vois son visage sur Internet ou n'importe où, ça me fait un petit quelque chose. J'ai une forme de sympathie pour lui alors que je devrais pas, mais ouais, je lui dois
quand
beaucoup.
Je le vois, j'ai envie de chier. Parce que je pense à...
Ah, tu penses à la photo?
Oui.
Ah oui.
Tu penses à la photo
qui est une émote sur une émote Twitch. Ah. Émote personnalisée.
On dirait qu'il sort des chiottes.
Là, j'ai fait une émote avec cette tête, et figurez-vous qu'en tout petit, cette tête, c'est quasiment la même expression que l'émote kappa. Donc, c'est notre kappa personnalisé sur mon chat.
Voilà.
N'hésitez pas à lâcher un sub, un prime.
Pour avoir l'émote.
Le kappa Bruno Le Maire.
Incroyable. Putain, très, très malin, Ribot, la petite.
Alors, ce qui est drôle, c'est que je me disais, si ça commence par L, par M ou par B, je pré-shot, je dis Bruno Le Maire instantanément, et j'ai entendu L, j'ai fait Bruno Le Maire.
Trop relou.
Je vous dis, c'est mon animal totem, il me porte chance.
Bon, attention, une femme politique qui commence par la lettre U.
Mais frère.
Ursula von der Leyen. Allez.
Ça marche bien.
Présidente de la Commission européenne, bien sûr.
Tout à fait.
Qui succède à
c'est pas Charles Michel.
Non.
Merde. Mais non, c'était le luxembourgeois là. Il a
presque un nom de super-héros. Ça finit par Man.
Superman.
Presque, c'est. Ah non!
Batman.
Non, c'est Jean Junker, un truc comme ça.
Ah, Junker, oui.
C'est ça, oui, c'est Junker.
Jean-Claude Junker. J'ai
Junkman en tête, mais non, Junkman.
Ah non,
c'est
pas du tout. Jean-Claude Junkman.
Ah oui, oui, j'ai la réponse.
Jean-Claude Junkman.
Bien sûr.
C'est Jean-Claude
Junker.
Grave. C'est ça, Jean-Claude Junker, pardon.
Junker.
Bien sûr,
Junker.
Junker.
C'est plus Junker. Junker, je pense.
Moi, c'est Jean-Claude Junker.
Junker, oh là.
Il y a une fois, il était un peu bourré. Il y a Viktor Orban, donc le président de la Hongrie, le fasciste notoire.
Ah oui, il lui a foutu une baffe là.
Non, il l'appelait Mister Dictator. Il était en mode genre,
c'est ça. Il lui fout une baffe après.
Il fout... Ah oui. Je vais pas prendre un exemple sur toi.
Oui, non, mais une baffe en mode.
Une petite baffe comme ça, en mode genre.
Non,
c'est pas ce que je voulais faire. C'était genre la petite truc amicale, comme dans Les Sopranos.
En vrai, on entend le bruit quand même.
Non, mais en plus, vous avez pas l'image, mais vraiment, Ribot, il me regarde, il se touche la joue. Ouais, tu te comme ça, tiens, mais rapproche-toi, le sourire, bien sûr.
On coupera ça au montage.
Oui. Ne coupe rien. Laisse tout.
Jean-Claude Juncker accueille Viktor Orban par un salut dictateur. Le président l'a.
Tiens.
Alors, c'est vraiment. Oui. Je pensais pas à ça.
Une
tape amicale sur la joue.
Non.
Okay. Si je n'aurais pas fait de vilain geste.
C'est une tape amicale sur la joue, mais.
C'est la tape amicale.
Mouvement quand même.
Ok.
C'est. Ouais, je sais pas, moi je veux vraiment la vibe humiliation, tu sais. Je sais pas.
Voilà, là. Alors, on le regrette, Jean-Claude Juncker.
On s'est bien chauffé, donc là, il va falloir être un peu plus créatif. Attention, je vous demande une revendication.
C'est-à-dire ?
Bah, par exemple.
Une revendication, attention, qui commence par la lettre A.
Arrêtez.
J'aime bien.
Augmenter les salaires.
Très bien. Ouais. Très bien. J'ai beaucoup aimé arrêter.
Arrêtez, c'est bien.
Arrêtez tout. Je peux pas refuser augmenter les salaires quand même. Très bien. Très bonne réponse.
Arrêtez tout. La 5ème République, on arrête tout. Stop. La politique, on arrête.
Je me souviens d'ailleurs que pendant tout le mouvement contre la réforme des retraites, il y avait un moment où ça faisait la 11e manif et il y avait vraiment des pancartes qui étaient très drôles, des pancartes désespérées, genre vraiment des pancartes où il y avait marqué bon là je sais plus trop quoi marquer ou tu sais genre bon écoutez stop. c'est vraiment genre là ça fait 11 fois qu'on manifeste.
Ça fait beaucoup là.
Voilà. Okay. Alors, ce que Macron cache sous sa perruque, la lettre W.
Ah putain, j'avais un super truc, mais non.
Un winner, un cerveau de winner.
Oh là, non, je ne peux pas accepter cette réponse.
C'est tout ça.
Mais si je l'accepte, évidemment, je l'accepte, mais ça m'énerve.
Il est en train de me rouler dessus là.
C'est
pas contente.
J'aurais voulu en préparer 1 milliard, j'en ai pas. Alors attends. J'en ai une autre.
C'est l'impro les questions depuis tout à l'heure.
Non, celle-là, c'est celle que j'ai notée, mais j'arrive dangereusement à la fin alors que je viens de commencer. C'est terrible. Mais c'est pas grave, je vais en improviser.
Oh. Très bien.
On te fait confiance.
Une façon de combattre Macron qui commence par la lettre R.
Lance-roquette, mais.
Donc juste une roquette.
Non, une raquette, allez, vas-y, on tape avec une raquette. Allez, ouais.
Raquette.
Ouais,
bah, façon.
Une raquette, je sais pas.
La résistance.
Oh.
Résister face à Macron et son monde.
Nous créons résistance.
Ah, elle est pas mal.
La République.
La République.
Les vrais républicains, c'est nous.
C'est vrai. Hein.
C'est vrai, pour de vrai.
Ouais.
La prochaine réforme annoncée par Gabriel Attal, qui commence par la lettre T.
Je vais dire taisez-vous, finissez le croque, mais faut que j'arrête.
Je fais la musique dans la bouche. Le totalitarisme. Allez, maintenant on devient totalitaire officiellement. Décret, projet de loi du gouvernement voté à la majorité à l'Assemblée nationale à l'aide des Républicains et du Rassemblement national pour que le régime devienne officiellement totalitaire.
Ah ouais. Moi j'avais un petit truc, mais c'est peut-être un peu capillotracté. C'est en mode nouveau ministre de la culture Thibaut Inchep. Voilà.
Des sports.
Moi, tu peux le.
Non, mais non, j'ai envie de la culture. Je trouve cultivé, moi.
Ok, donc nouvelle mesure, Thibaut Inchep.
Ouais.
Thibaut Inchep, ministre de la culture.
Est-ce que ça serait pas encore pire que le totalitarisme?
C'est la même chose. Pour moi. C'est la même chose. Si tu me demandes, c'est la même chose. Mais vraiment.
Je me suis fait insulter par la brigade de défense de Thibaut Inchep sur Twitter il y a pas longtemps.
Mais c'est peut-être mérité, non?
Bah, je sais pas. Si on voit mon tour de biceps, oui. En termes sportifs, c'est un peu mérité.
Pour les gens qui ne connaissent pas,
ah, mais c'était pas inspiré, hein. C'était jaloux, homme soja, rien d'autre. Bah,
putain, mais t'as préchoté ma blague, je voulais te traiter d'homme soja, là.
Bah, c'est l'extrême droite qui a préchoté ta blague, Alice.
Oui, non mais ouais. Non mais ouais, c'est vrai que typico l'homme soja, il boit un peu.
Bah physiquement, oui. Culinairement, non.
Allez, une insulte, je rebondis parce que je suis une balle. Une insulte que l'extrême droite pourrait dire à Ribot qui commence par la lettre K.
Cassos. Non, ça marche pas. Si, ça avec marche, un C.
Non, mais il y a la série s'appelait Cassos avec un K.
Ouais.
Kéké. C'est dur. Hein. Ouais, Kéké sinon.
Kevin.
On dirait pas Kevin. Quinoa, c'est avec un Q.
On me l'a beaucoup dit. On retourne manger ton quinoa. Avec plaisir que je mangerai mon quinoa.
La nouvelle affaire qui secoue le Sénat, qui commence par un Y.
Oh putain, mais que des lettres à la con.
Bon, Y, c'est dur, hein.
Pas ouf, mon jeu.
Non, c'est bien. Alors, c'est tombé sur le. En vrai, le jeu est très bien, mais juste Y, c'est K. Puis Y après, c'est plus.
Les deux lettres valent 10 au Scrabble. Hein.
Ouais.
Super.
Y.
On devrait faire du Scrabble en fait.
Yolande Moreau.
Voilà.
Voilà
qui, putain, Yolande Moreau qui arrive avec sa clope.
Qui dénonce, qui dit les termes sur la.
Putain, je les ai vus les deux là dans le cabinet en train de ken. Ça va pas.
J'ai que des prénoms de femmes d'un certain âge. J'ai Yvonne, Yvette, Yolande, mais j'ai aucun autre mot qui commence par Y.
Aucun autre mot.
Aucun autre mot. J'ai que des prénoms féminins de la génération passée.
Il y aurait des frites. Bon, n'importe quoi.
Il y aurait des frites au Sénat parce que.
Oh, je pense qu'il y a des frites au Sénat. Je pense qu'ils se
mettent. S'il y en a pas, j'y vais pas moi.
Tu comptes y aller?
Non, pourtant, ils viennent d'augmenter leur enveloppe de 700 euros.
Hein. Oh bah, putain, alors là, si les frites,
c'est à l'occasion d'être sénateur.
Putain, allez.
J'en ai une éventuellement. Ouais.
Fais-nous jouer.
La prochaine personne nommée au gouvernement, parce que vous savez que là, on n'a pas encore les secrétaires d'État, les ministres délégués, donc il va y avoir des nouvelles personnes au gouvernement.
Je te laisse appuyer du coup sur la génération.
J'ai cru que c'était encore Y, je me disais.
Ah, du coup, faut trouver qui sera la nouvelle personne.
Personnalité politique qui pourrait être nommée, qui serait au gouvernement. Là, bientôt ça va tomber.
Ok.
Peut-être Bayrou à l'éducation. Alors, qui commence par la lettre F.
François Bayrou, tout simplement.
J'allais dire François Hollande.
J'ai spoil, pardon.
Mais en plus, c'est la vérité, c'est hélas la vérité.
Et bah, il risque d'être ministre de l'éducation.
Il y a quand même des rumeurs qui arrivent sur Oudéa Castéra qui dégage, parce que bon, ça va quand même.
Trop gênant.
La casserole.
Je crois que j'ai. Alors, c'est peut-être. J'ai peut-être rêvé, mais j'ai vu des rumeurs comme quoi Sarko pourrait faire un comeback au gouvernement.
Alors, je crois qu'au dernier remaniement, il y a eu 2-3 personnes qui ont commencé. Je parle même de cet été, il y avait des gens qui commençaient à dire. Et si Macron remplaçait pas Borne par Sarkozy? Il y a eu une petite séquence où les commentateurs politiques se sont fait un kiff en s'imaginant Sarkozy Premier ministre.
Bah, c'est que des anciens Sarkozystes le gouvernement, donc ils avaient un peu raison, ouais, quelque part.
C'est ça. Eh bien, pour le coup, pour la peine, c'est ça le mot que je voulais dire, pour la peine, on va pas tarder à se quitter.
Aïe.
Il n'y a pas une dernière question là, sur le jeu?
Non.
Je l'ai tellement.
Non, je regarde l'heure et je me dis voilà.
Il retourne, mais on passe un si bon moment.
Le jeu a été piètrement préparé et finalement on a bien rigolé et donc c'est ça qui compte.
Oui.
Avant, tu as roté dans ce micro.
Putain, j'ai même pas fait gaffe, pardon.
Comme si tu t'étais cru à ton podcast, hein, la transition.
Ah putain, incroyable. Oh. Tout bon, est alors, calculé en fait.
Ça consiste en quoi ton podcast, Alice?
Faut pas me poser de questions.
Roter dans un micro du coup, c'est ça?
Je crois que ça consiste essentiellement
non,
à ça.
Non, non, en vrai de
non,
vrai.
Non, c'est pas vrai.
En vrai de vrai, si je vais vous décrire Onomatopée, c'est vraiment deux connasses sur un lit qui se racontent des histoires. Okay. On record chez moi en fait. On se pose sur mon lit, on prend des snacks et tout. Bah, un peu comme ici finalement. Hein. Mmh. C'est juste que, bon voilà, pour l'instant, Julien ne record pas depuis son lit. Ça peut changer pour les épisodes à venir, donc n'hésitez pas à écouter la suite. Hein. Tu penses. Oh, dommage, dommage, dommage. Non. Et donc en fait, on se raconte des trucs, on parle de plein de sujets, sujets de société, ça peut dériver, alors pas forcément frontalement sur de la politique, tu vois, mais on va forcément
vous
parler
de... Vous
laissez
porter dans la discussion, en fait...
C'est ça.
Alors je sais pas si c'est un schéma, moi, de ce que j'ai compris en écoutant les épisodes qui sont pour l'instant sortis, je sais pas si ça va évoluer, si ça a déjà évolué dans ce qui a été enregistré mais qui est pas sorti, j'ai l'impression qu'il y a pas mal ce schéma de, en gros, toi tu vas faire la conteuse.
Un peu, ouais.
Il y a beaucoup ça.
Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Y a, donc c'est toi et Laura.
Ouais.
Et il y a toi qui va arriver avec une histoire à raconter, un petit storytelling de, d'un truc soit cocasse ou qui va concerner une personnalité ou tout ça.
Ouais.
Et tu vas raconter ça et en fait... Tu n'arrêtes pas d'être de t'auto-couper ou d'être coupé par Laura pour dire une anecdote, pour dire ce que t'en penses et du coup qui amène à une discussion, etc. Et ça
c'est
peut
ça.
Partir très longtemps.
Ouais.
Donc il y a, on va dire, un petit storytelling qui sert de base à la discussion, mais après vous laissez porter en fait sur tout
c'est
et
ça.
Rien. Quoi.
J'avoue que moi je suis plus à l'aise si je prépare un script pour l'épisode avant, mais effectivement. Le but c'est qu'on dérive, qu'on rigole, que ce soit en fait. Que ce soit spontané de fou. Et de toute façon, même Laura, elle préfère de pas connaître les sujets à l'avance.
Ouais.
Ça lui arrive des fois de driver l'épisode, de prendre...
Ouais, parce qu'elle va raconter un truc plus qui la concerne, pour le coup. Plus qu'un truc...
Pas forcément.
Ah ouais. Parce que je me souviens de l'épisode où elle parlait de son rapport de groupie, entre guillemets.
Oui, c'est ça, de son expérience.
Elle a raconté toute
une
histoire assez longue.
C'est ça, exactement. Bah, tu vois, typiquement... c'était un peu plus ça. On va souvent alterner. Des fois, on va avoir une histoire chacun. Il y a plusieurs épisodes qui sont pas encore sortis où c'est elle qui va driver l'épisode.
D'accord,
et tout.
D'accord. Donc ça peut être aussi. Okay.
C'est vraiment. Il y a pas de c'est pas prédéfini. C'est vraiment on fait au fil de l'eau. Mais c'est vrai que j'aime bien raconter une histoire, trouver un sujet et tout.
T'aimes bien avoir un petit fil rouge, quoi.
C'est ça. J'aime bien prendre. Ça arrive que des épisodes, genre, on dit juste, le dernier épisode, typiquement, on a dit, on parle des histoires de voisins, le prochain épisode, vous l'aurez entendu ici en premier, mais le prochain épisode, c'est sur les colocs. Donc, on va parler de nos expériences et machin, on va raconter une petite histoire. Mais ouais, j'aime bien. De toute façon, en vrai, ce que je consomme comme contenu, que ce soit des podcasts, etc., c'est surtout des contenus où c'est, on raconte une histoire. C'est pour me. C'est divertissant en fait, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est l'impression d'être dans la pièce avec les personnes et juste t'interviens pas, mais c'est comme si t'étais dans ton coin. C'est comme si.
C'est ça.
C'est un peu une soirée pyjama où toi t'es en train de t'endormir, mais t'es trop fatigué pour intervenir. Mais par contre,
j'aime bien,
t'es quand même dans la discussion parce que tu l'écoutes et que voilà.
Ouais,
il y a ce côté, vu que vous enregistrez sur un lit.
Ouais.
Nouvelle description officielle du podcast. Soirée pyjama.
Ouais, non, mais c'est sympa.
C'est bien dit.
Mais ouais, et puis après, on discute un petit peu aussi de ce que c'est que d'être une créatrice de contenu, d'être un personnage un peu public sur Internet, de ce que ça implique, etc. Enfin, on aime bien parler de ces questions-là.
Cool.
Ouais.
Et un autre truc de prévu à part ça, ou c'est essentiellement ça, ton actu?
Alors, je fais toujours les matinales sur Twitch où je fais du React, donc c'est du lundi au vendredi à partir de 9h, juste après la matinale de Spoitique d'ailleurs, qui me raide assez régulièrement, c'est super cool. Et sinon, j'ai aussi toujours ma chaîne YouTube où j'essaye de produire des vidéos régulièrement dans la mesure du possible. J'aimerais bien développer un peu plus cet aspect-là.
Ouais.
Et voilà, là j'ai une vidéo des rushs que je dois tourner qui est dans les cartons. Donc voilà.
Chaîne YouTube plébiscitée par le zapping YouTube de Mr. Fox.
J'avoue! Ah, oh, Mr. Fox, il est déjà passé dans ce podcast, hein, que tout à incroyable. Fait. Je m'y attendais pas du tout.
C'était avec qui déjà? Ah, si, je m'en souviens.
C'était Usul et Lumi, non?
C'était avec Catherine
premier degré,
Vautrin.
Justement.
C'est très Catherine Vautrin à chaque fois.
Ouais.
Catherine Vautrin qui a la prod, hein, qui est juste voilà, qui a pas de micro, mais qui a la mixette à chaque fois.
Hein. Yes. C'est-à-dire merci sous la table, hein, vous voyez pas, mais vos saignes. On lui jette des fois des apéritifs.
Voilà, c'est une chips plantain là, hop là.
Mais ouais, effectivement, je remercie encore Mr. Fox de m'avoir fait ce petit shout-out parce que ça m'a doublé les abonnés sur ma chaîne YouTube, donc pas dégueulasse.
Ah ouais.
Donc voilà, je recommande.
Ribo, toi.
Mon actu.
Ton actu YouTube là, ça arrive lourd.
Alors,
ou pas?
Ça arrive très très lourd. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler sur mes scripts pour deux raisons. Premièrement, trois raisons. Trois raisons. Première raison, du coup, mon taf me prend quand même pas mal de temps cette année. Je serai mis le temps l'année prochaine pour pouvoir justement sortir du contenu plus régulièrement et j'en suis très très heureux. Et surtout, l'autre raison, c'est que je suis en plein déménagement en ce moment et donc c'est un peu la galère. Et en plus, je me suis lancé sur Twitch il y a pas si longtemps et là j'étais plus sur Twitch quoi. Donc, du coup, mon script peine à avancer. Donc, je sais pas exactement quand sortira le podcast.
Samedi.
Putain, c'est précis.
La nouvelle vidéo devrait sortir au mois de mars. Voilà, je vais pas avancer plus que ça. Je comptais le sortir début mars, ça serait peut-être plus fin mars. On est sur le mois de mars, donc la prochaine vidéo, je peux déjà vous dire de quoi ça parle. Ça parlera de fiscalité, un sujet passionnant.
Ah yes.
Faut-il taxer les riches? Donc la réponse est oui, mais.
Attends, dis pas la réponse.
Oui, j'avoue, tu sais.
C'est une réponse ouverte. Si je réponds non.
Et si moi, je voulais pas savoir.
Tu penses qu'il faut pas taxer les riches?
Mais non.
Je voulais le savoir dans la vidéo.
Mais oui, moi je vais découvrir.
Alors, ça va parler un peu de Bernard Arnault, de la fiscalité, des riches et de tout ça quoi. Voilà. T'aimes bien Bernard Arnault?
Ah j'adore.
Il fabrique
bienfaiteur de l'humanité, non?
Il fabrique des beaux sacs en réalité.
Oui, j'avoue, il fait ça dans son atelier avec son petit.
Il est repassé number one. Hein.
Oui, il a repassé number one
au classement mondial.
Il revient très très fort.
Il a redépassé Elon Musk.
Putain, mais à votre avis, ils en ont quelque chose à foutre, non. Je pense.
Sur un aspect taille de bite, quoi.
Oui, voilà, non, exactement, ça change rien. Exactement. Oui.
Surtout que...
Mais en soi, ça ne change rien. Ça.
La fortune de Bernard Arnault se mesure pas tant que ça en dollars plus en influence, quoi.
Ouais. Voilà.
Pouvoir privatiser le Pont Neuf pour faire un défilé avec Pharrell Williams, en réalité, c'est un plus gros flex que d'avoir 180 milliards, selon moi. Enfin,
putain.
Les deux alimentent l'autre, quoi. Mais au bout d'un moment, l'argent, il faut s'en servir pour flex d'une manière ou d'une autre et racheter la moitié des.
Non, mais il y a un moment.
Racheter la moitié des bâtiments de Paris, c'est pas mal, par exemple. Voilà. C'est stylé.
Je pense qu'il y a un moment où, quand on parle de ces gens-là, on peut considérer que, à leurs échelles, ils ont argent illimité. Si on parle vraiment de fortune personnelle, ils ont argent illimité. C'est-à-dire, il n'y a rien que Bernard Arnault dit. Si il a une pulsion et qu'il dit, je veux m'acheter un truc. C'est-à-dire, en fait, même s'il a une pulsion et qu'il se dit, je veux m'acheter un truc. Le même truc tous les jours jusqu'à ce que je crève, il pourra le faire, si c'est une villa, tu vois.
C'est le type
pour moi, le truc le plus cher, ou même si c'est un avion, tu vois. Il peut en acheter un par jour jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a argent illimité. Après,
c'est un niveau, c'est prestige. C'est du
niveau où après, ça se calcule en actions, en capital, en patrimoine, de machin. À la limite, qu'on s'en fout et effectivement que ça aussi entre 188 milliards ou 210
ça revient même.
Mais moi, c'est un truc que j'ai jamais compris chez ces gens-là. C'est ces mecs, genre pour le lol, ils pourraient résoudre tous les conflits, résoudre la fin du monde.
Il y a des choses qui ne dépendent pas que d'argent.
Vous avez compris ce que je voulais dire.
Je suis pas sûr que mettre 200 milliards sur la table, ça puisse résoudre le conflit israélo-palestinien, par exemple. Il y a des choses qui dépassent un petit peu ça, quand même. Il y a des choses qui sont agitées par des tenants et aboutissants tellement profonds et complexes.
Non, mais tu vois, si Bernard Arnault, il se levait un matin, il disait je me fais chier, je vais aider la Palestine. Enfin, t'imagines?
Ah ouais,
il pourrait, c'est ça, c'est vraiment dingue.
Ça serait le twist le plus. Le plus inattendu de l'histoire de l'humanité.
Non, mais voilà, c'est. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi ils ont. Ah, vas-y, je vais. Ce connard de Bezos, là, pardon, qui a foutu une horloge géante dans le désert.
Patron. Dites-le avec son sweat Twitch.
Oui, putain.
Il va te couper les subs, hein. Tu sais que tu vas passer en 60-40 bientôt.
Super.
Et bah, c'est peut-être que si tu parles trop mauvais de.
Ah, il écoute d'ailleurs le millième tour.
Il écoute probablement, mais. Ouais.
Non, non,
peut-être
mais.
Tu as coupé les 60-40, fais attention à toi. Bon, bref.
Bon, en, tout, oui, cas, oui. En tout cas, voilà. Ouais. Oui, vidéo partage sur... des richesses, fiscalité, ouais. Les ultra riches.
Et alors, le nom de la vidéo, etc. ça risque d'être même les angles morts de la fiscalité.
Oh, bah.
Oh là là.
Un peu gros cerveau, mais un peu fun. On va se foutre de la gueule des riches, quoi.
Oh là là là.
Et sinon, bah, tous les lundis sur Twitch, vers 15h, voilà. Je suis D'accord. pas sûr de pouvoir plus streamer qu'une fois par semaine. Ouais. Mais le lundi, ça sera ma journée. Donc, si vous voulez voir quelqu'un lire des articles, regarder des petites vidéos en rapport avec la politique et insulter copieusement les macronistes et les fascistes, avec même parfois quelques petites imitations pour suivre là, ça peut arriver.
Bah tiens.
N'hésitez pas.
Les liens seront dans la description de l'épisode, bien évidemment, comme d'habitude. Et bah merci à vous deux
d'être
venus. Et voilà. Et vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté. Rendez-vous au prochain épisode du Millième Tour. Salut, au revoir.
Ciao.